Qu'est-ce que c'est que ça?
Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi?
Welcome to Retibetum Flying Circus.
Regardez-moi un peu comme ce cirque géant
et merveilleux. Retibetum Flying Circus. From Ocade 2.
Arrêtons-y tout de suite! Le cirque! Le cirque!
What the circus?
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Radio Béton Flying Circus, l'émission en direct du Festival au Quart de Tour, Festival au Quart de Tour 39e édition et deuxième jour déjà. Vous nous écoutez peut-être sur Radio Béton, mais pas forcément, vous nous écoutez depuis votre radio Ferrarock préférée. On est donc au deuxième jour de ce festival. Avec une belle soirée d'introduction hier, soirée qui a culminé un petit peu pendant le concert de Médine, une espèce de grand messe, grand moment de communion populaire et antifasciste. C'était très beau à voir, mais bien sûr il n'y avait pas que Médine ce soir. En tout cas c'est une très bonne soirée et tous les indicateurs sont au vert pour nous faire croire que la soirée de ce soir sera du même acabit.
Oh oui, je pense. Hein. Et une soirée qui s'annonce sous le signe quand même du rock'n'roll et de la guitare saturée, parce que quand on jette un petit coup d'œil à la prog, on se voit qu'il y a quand même pas mal de groupes qui, je pense, vont retourner les chapiteaux, notamment les Not Scientists qu'on va recevoir.
Un groupe qui est en train de s'installer présentement
sous la tente radio.
Qui s'installe tranquillement, les Not Scientists, qui ont l'honneur d'ouvrir ce plateau radio d'aujourd'hui. Ouais. Et qui clôtureront le petit chapiteau de ce soir, le petit chapiteau, le moyen chapiteau peut-on dire. Désormais, Vincent, c'est toi qui vas interviewer les Not Scientists qui sont en train de s'équiper justement.
Bah ouais, je suis très content de les recevoir. C'est un groupe que j'ai énormément écouté à une période, donc je trouve ça très chouette de les avoir en face de moi. Et ouais, on va revenir un peu sur leur parcours, évidemment sur le dernier disque et sur les différentes directions artistiques qui ont été prises. Je vous fais une rapide présentation. C'est un groupe qui s'est formé dans les années 2010, en 2012 plus particulièrement à Lyon, composé originellement de membres des groupes Uncommon Men From Mars et No Guts No Glory. Ils ont sorti leur dernier disque en septembre 2025, un quatrième album, cinquième disque. Un album qui prolonge un peu cette direction prise sur le précédent album Staring at the Sun, c'est-à-dire aller explorer les registres voisins du punk, donc la post-punk, la new wave. Sur ce nouvel album, on garde ce qui fait l'ADN du groupe et on y rajoute des éléments de production un peu plus modernes, des synthés, des textures. Bref, en résulte un album intense, fin et réfléchi, peut-être le plus abouti de toute leur discographie. On va en reparler ensemble. Bienvenue les Not Scientists sur Au Quart de Tour et sur ce plateau de Radio Béton.
Salut. Salut.
Et déjà, est-ce que vous allez bien? Ça va?
Super.
Super, la forme. C'est pas la première fois que vous mettez les pieds à Tour. Vous connaissez un peu la maison, je crois.
Oui. Absolument.
On va commencer par une première question. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, que je mette des noms sur tous les visages autour de la table?
Ou à la basse?
Ah, salut, c'est Tatan à la basse.
Moi, c'est Ed, je suis guitariste chanteur.
Moi, c'est Fred, je fais la guitare.
Et Basile, batterie.
Eh bien, enchanté les gars, donc on a le groupe au complet devant nous. Ma première question, Fred, s'adresse à toi, puisque sur ce dernier disque, c'est la première fois que tu es à la composition. Alors tu as rejoint le groupe, il me semble, à la fin de l'enregistrement de Staring at the Sun, si je dis pas de bêtises,
ouais,
que tu as pu défendre en live. Et ouais, donc là, c'est la première fois que tu participes à la composition en tant que membre officiel du groupe. Je voulais savoir, alors le groupe avait commencé déjà un peu cette transition musicale à vouloir aller explorer peut-être d'autres registres un peu voisins, on le disait, un peu new wave, un peu post-punk. Est-ce que ton arrivée a vraiment renforcé ce truc-là? Qu'est-ce qu'elle a apporté en plus dans la composition de ce dernier disque?
Quelqu'un d'autre, avec une autre façon d'écrire, je suppose. Et on s'est vachement concerté, on a fait tourner beaucoup de morceaux entre nous pour les compos et... T'allais dire un truc, Tatane.
Il a ramené de la fuzz.
Énormément,
ouais,
de fuzz.
De la folie.
Ouais, c'était chouette de fonctionner comme ça. On a essayé des trucs. Moi, par défaut, je propose 4 millions d'idées par morceau. Et puis après, on élimine.
On sent que cet album, il a quand même un côté plus travaillé, en tout cas, dans tout ce qui est harmonie, mélodie.
Est-ce que ça vient du fait que t'as peut-être un bagage musical qui est différent des autres membres du groupe? Est-ce que t'écoutes plus de choses, je sais pas, du jazz par exemple? Qu'est-ce que t'as fait avant d'arriver dans The Scientist?
Ben moi j'ai joué dans les Pookies pendant 10 ans. Et c'était assez tordu déjà en termes harmoniques. Puis après je suis parti en Espagne faire du flamenco pendant 10 ans aussi. Donc on y va bien dans la torsion de la musique aussi. Non mais je crois qu'on écoute tous des trucs bien différents et c'était l'occasion de mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis d'essayer d'autres trucs quoi.
Ouais, trop chouette. Et ça c'est quelque chose qui tout de suite vous a parlé, à vous aussi. Je m'adresse aux autres membres du groupe parce qu'on est à la radio, vous voyez pas mais je les regarde. C'est quelque chose qui vous a tout de suite plu, c'est quelque chose que vous aviez envie d'essayer aussi.
Ben, en fait quand Fred est arrivé, il s'est passé un truc. Moi je vais lui envoyer un morceau par exemple. Il va complètement le déconstruire, tout réarranger, changer tous les accords, le renvoyer, et ça va complètement transformer le morceau. De la même manière que Basile va poser sa batterie sur un morceau, et ça va complètement transformer le morceau. Et Fred, il a ce truc aussi, parce qu'il a une manière d'amener des riffs et des sons qui est nouveau pour nous, quoi. Et ça a vraiment apporté, ça a changé la gueule de plein de morceaux. Ouais.
Et ça, c'était une volonté du groupe aussi de s'éloigner peut-être un peu plus de ce que vous faisiez avant, depuis un moment déjà aussi, d'aller chercher et essayer des nouvelles choses?
Pas vraiment. La volonté du groupe à chaque album, c'est d'essayer des nouveaux trucs. C'est pas forcément de s'éloigner, mais d'explorer, d'expérimenter avec des nouveaux sons et des nouveaux jouets, des nouveaux gadgets.
C'est quelque chose qui se fait assez instinctivement finalement.
Ouais. Ouais. Bah ça garde le truc intéressant et puis on se surprend nous-mêmes en fait. On sait pas. Là, on serait incapable de te dire à quoi va ressembler le prochain disque. Bon, ça sera du Not Scientist, mais il y aura un truc en plus, forcément. On est encore en train de le chercher.
J'ai entendu que pour l'écriture de ce disque, donc, vous étiez quasiment tous à distance, il me semble. Et est-ce que c'est ce qui explique aussi ce travail plus poussé sur l'arrangement? En tout cas, moi j'ai trouvé que l'arrangement de ce disque-là était plus travaillé, plus poussé. Est-ce que le fait d'écrire un peu, composer, reprendre un peu chacun dans son coin, ça laisse plus de temps et on va vraiment dans son idée à fond et après on la présente aux autres?
Certainement, ouais, c'est certainement ça. On prend le temps, on fait des arrangements plusieurs fois. Des fois, on fait tellement d'arrangements que y a même des morceaux qu'on a eu laissés de côté parce que trop d'arrangements. Mais ouais, ça nous laisse le temps. D'ailleurs, il y a deux ou trois morceaux qu'on a fait en répète à l'ancienne et ça se sent un peu. Ils sont plus naturels. Ça a ses bons côtés aussi. Mais oui, il y a des morceaux qu'on a bien pris le temps de déstructurer.
Ouais. Et ça doit faire quelque chose quand vous vous retrouvez et que vous le répétez pour la première fois ensemble, ce morceau-là. Oui. Enfin, ces nouveaux morceaux.
Bah, on a l'impression d'être un groupe de reprises de notre scientiste et d'apprendre à jouer le morceau pour la première fois.
Mais il y a plein de morceaux, on est arrivé en studio, on savait pas du tout comment on allait s'y prendre. Ouais. Chacun connaissait à peu près ses parties. Et c'était surprenant. Mais après, l'autre partie de ça, c'est qu'on a senti à la prod qui lui est hyper surprenant. Et lui, il a carte blanche. C'est-à-dire que quand il commence à enregistrer un morceau, quand il commence à enregistrer la batterie, il sait où il veut aller. Nous, on sait pas où il veut aller, mais on sait qu'on va être d'accord.
Ouais, c'est un peu celui qui vous guide en fait dans ce que vous proposez chacun individuellement, et lui va rassembler ça et vous donner une cohérence un peu plus globale. Ouais, vous disiez en interview que c'est presque un membre du groupe à part entière, parce que c'est la deuxième fois que vous travaillez avec lui, il me semble.
Troisième
fois. Et c'est une collaboration qui va se réitérer, oui. J'imagine.
Ouais. Ouais. Il connaît tellement bien le groupe, il nous a accompagnés, c'est le troisième album qu'on enregistre avec lui. Et il voit où on veut en venir. C'est un peu comme un GPS, nous on tape l'itinéraire, quand on arrive on lui dit à peu près ce qu'on a envie de faire et lui il nous amène à bon port.
Et puis c'est vrai qu'il est force de proposition, il va nous amener dans des nouveaux sons, des nouvelles tessitures de sons, il va expérimenter des choses et 95% du temps on est d'accord.
C'est beau, ça s'est fait comment cette rencontre-là?
Complètement par hasard. Sur une tournée en Espagne, c'est lui qui a fait notre son, parce qu'on n'avait pas de sondier avec nous. Et on a passé la soirée à discuter, et à la fin de la discussion, il nous a dit qu'il avait un studio. Et c'était justement au moment où on se demandait où on allait enregistrer l'album Golden Staples, le deuxième album. Je sais pas, il s'est passé un truc ce soir-là, on s'est tellement bien entendu, on a dit vas-y, on essaye. Sans savoir où on mettait les pieds. Et on s'est rendu compte en arrivant qu'on a mis les pieds exactement où il fallait.
Parce que je suis allé regarder un peu ce que lui avait produit, les choses sur lesquelles il avait bossé, parce qu'il est ingénieur du son aussi, il me semble. Et donc il y a beaucoup de groupes espagnols. Il a l'habitude, lui, de travailler avec des groupes étrangers, internationaux, d'autres pays.
Ouais, ouais. Et là, il a, enfin, nous, juste avant qu'on enregistre, il y a 2 ans, je crois, c'est ça? Il y a 2 ans, il recevait un groupe japonais. Donc, ils étaient venus spécialement pour enregistrer avec Santi, okay. Parce qu'ils sont, enfin, ils connaissaient les talents de production de Santi. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, quoi.
Ok.
Il a fait pas mal de trucs de la scène Screamo française aussi, des ouais. Nitro, des
Moi, où j'avais halluciné, c'est que j'étais grand fan de la scène donc Screamo lyonnaise dans les années 2000, Nitro, Mia Idrich, tout ça. Et en fait, c'est lui qui a créé, façonné le son Screamo de la scène lyonnaise. C'est là-bas que Nitro est enregistré. Donc, double claque pour moi en arrivant là-bas.
Pouvoir se dire, aujourd'hui, je bosse avec ce mec. Ça fait, ouais, ça fait quelque
cool.
chose.
Ouais, c'est cool.
Trop bien. C'est donc un disque, qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être plus travaillé dans les arrangements, plus moderne, peut-être plus compliqué à mettre en place aussi pour le live. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de...
Bizarrement
de
pas.
De résidence ou de... Non, du tout.
Bon, on s'est rendu compte que les morceaux étaient assez taillés pour la scène. Il y a juste eu un travail de son et de texture, trouver les bons sons. Il y a des morceaux où il y a des sons de caisse claire particuliers, ou les guitares, on a beaucoup, vraiment travaillé les sons de guitare et de basse. Mais les morceaux à jouer sur scène, c'est venu assez naturellement.
Ouais. Et dans une question plus technique, est-ce qu'on retrouve des synthés sur scène? Est-ce qu'il y a des overdubs? Est-ce qu'il y a des choses? Qu'est-ce qui va se passer en plus maintenant avec ce nouveau disque si on retourne voir notre scientist en live ce soir notamment?
C'est à peu près.
Vas-y.
Bah en fait c'est tout sur j'ai acquéri un un SPD et donc je lance des boucles sur via le SPD.
Ok.
Mais il n'y a pas d'instrument clavier en soi, mais on joue sur des boucles en fait, okay. Sur certains morceaux.
Et ça peut être une volonté ça pour plus tard de dire. Bah, si l'occasion se présente et qu'on a envie, soit on agrandit la formule, soit on répartit.
Clairement, ça, ouais. on en parle souvent, on aimerait bien. Après, pour un groupe comme nous, c'est rajouter quelqu'un dans le groupe, c'est des gros changements à plein de niveaux. C'est plus de moyens, plus de gens à loger, plus de. Enfin, voilà, c'est un bordel. Donc, un jour peut-être, mais pour l'instant, on arrive à reproduire les morceaux comme ça.
On essaye d'en mettre le moins possible. C'est pas tricher, on met pas d'harmonie, on met pas de voix, on met pas de deuxième guitare, troisième guitare. C'est vraiment juste quand il y a des gimmicks de synthé importantes, on met la gimmick de synthé importante derrière. Si on pouvait mettre une personne en plus au synthé et aux machines, ce serait super. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Parce que vous êtes quand même un groupe de punk et j'imagine, et vous l'avez déjà fait, que vous avez envie aussi de pouvoir jouer peut-être en mode pirate à l'arrache. On
ouais,
dit, vas-y, viens, on trouve une date, on se met dehors, qu'on puisse s'installer et que ça puisse fonctionner.
C'est la condition, c'est ouais. Que les bandes, ok, mais il faut qu'on puisse faire sans ou avec vraiment le minimum. Quoi.
Et que ça sonne.
C'est ça.
On peut jouer tous les morceaux comme ça. C'est, ouais. C'est juste du sel et du poivre en plus pour.
Exactement, on n'est pas tributaire de cet ouais. Aspect-là. Quoi.
Okay.
On est capable de tout jouer sans nappe derrière. Quoi.
Ouais, puis ça va peut-être aussi avec la volonté du groupe de se dire potentiellement pas brut, mais ça a toujours été dans cette. Enfin, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait cet ADN là de pouvoir dire on y va à fond, on se donne et on passe pas, je sais pas, une heure à régler, à tourner des boutons pour
on annulera pas un concert parce qu'il y a un ordi qui a été perdu ou un truc comme ça.
On peut parler rapidement Voices, votre dernier album, de la pochette de l'album, parce que là aussi c'est une collab de longue date. Vous avez retravaillé avec Ulrich Tautier, qui est tatoueur, graphiste. C'est lui qui avait déjà travaillé sur les précédents disques, il me semble. C'était une ouais. Volonté aussi de votre part de continuer cette collaboration là parce que ça fonctionne, parce que pourquoi?
Ouais, bah comme avec Santi pour le son, avec Ulrich pour l'imagerie, ça marche super bien depuis le début. Et il nous surprend. Ce qu'on fait, c'est que quand on a fini de maqueter l'album. Attends, Fred, tu veux parler? Pourquoi tu rigoles? Je dis des conneries.
Non, pas du tout.
Et ben, on lui file les morceaux, le titre de l'album et les paroles des morceaux. Et puis, il nous propose quelque chose. Et pour l'instant, à chaque fois, on a été. Il nous a régalé.
Donc, lui aussi, la carte blanche sur ce qu'il peut vous proposer.
Oui, oui.
Vous avez quand même l'air d'être entouré de personnes depuis un bon moment et des mêmes personnes et ça fonctionne quoi.
Oui, c'est cool.
Ça s'est fait assez rapidement ça ou comment on se construit autour d'un groupe, un réseau de gens avec qui on aime travailler
On a de la chance d'avoir des amis très talentueux.
Ouais, et... je crois que c'est ça. Puis quand c'est pas cassé, faut pas réparer. Hein,
ouais. Si ça fonctionne, pourquoi changer quoi.
Ulrich, on se connaît depuis des décennies. Il jouait dans le groupe de Basile et Tatane, No Ghost No Glory, le groupe dans lequel ils étaient avant Not Scientist. Donc c'est tout des potes, quoi.
Et puis surtout, c'est pour Ulrich et pour Santi, c'est des gens qui sont hyper adaptables, qui font vachement en fonction de ce que nous on propose aussi. Ils vont pas proposer à chaque fois la même pochette, à chaque fois la même production. À chaque fois, il y a une évolution, il regarde ce qu'on veut et il propose un truc différent. Il y a une patte probablement pour Ulrich, mais
et encore.
Ouais, c'est cool. Hein,
et encore.
Entre la précédente et celle-ci, ça a rien à voir.
Ça a rien à voir.
Et à chaque fois, nous, ça nous parle. Et je crois que ça parle aux gens aussi. Les pochettes sont cool.
Les pochettes sont très cool. Alors à la radio, on peut pas vous la montrer, mais on peut vous la décrire rapidement. L'album s'appelle Voices, et donc là, on retrouve sur la pochette front, il me semble, c'est donc deux personnes, deux visages qui se regardent, deux personnes âgées, il me semble, et qui s'enlacent aussi. Et de l'autre côté, on retrouve c'est des personnes plus jeunes, des enfants. Il y a un parallèle.
Il y a une deuxième illustration où ils sont jeunes.
Ouais, c'est ça.
Donc ils s'entrelacent, mais ils ne se regardent pas. Ils ont la tête complètement tordue à l'envers.
Et donc ça raconte un truc sur l'album.
Ça raconte ce qu'on veut bien y voir.
Ah.
C'est comme la pochette précédente. C'est à chaque fois il y a beaucoup d'interprétations possibles et
c'est un peu comme l'astrologie finalement. Tout le monde y retrouve un peu son compte.
J'adore cette réponse. Merci Fred.
Not Scientist, c'est un peu comme
l'astrologie finalement. Non, mais c'est vous, ça vous parle en tout cas, et vous arrivez à raccrocher ça avec l'ambiance qui a été voulue sur ce disque-là.
Tout à fait.
Et en parlant de cette ambiance-là, de quoi il parle ce disque-là ?
De fin du monde.
Fin du monde, de ce qui se passe. J'écris les textes, pas parce que je suis bon, mais parce que c'est à moi de le faire. C'est toujours tombé sur moi. C'est ce qui me passe par la tête, c'est des émotions du moment. Des fois, c'est des choses mélangées. Des fois, c'est plusieurs histoires en même temps. Je me nourris de ce que je vis et de ce que vivent les gens autour de moi. Et c'est des émotions, en fait.
Donc, assez personnel.
Ouais, plutôt sombre, en général.
C'est l'époque qui veut ça ou...
Ouais, l'époque aussi, ouais, parce que je me nourris aussi de ça, ouais, c'est sûr.
Pourtant, c'est des titres qui font danser.
Et c'est ça, le truc bizarre.
Là est tout le paradoxe. Parce que on l'a dit tout à l'heure, mais vous jouez à 23h40 sous le petit chapeau, le moyen chape. Ça risque d'être bien blindé. Vous faites la clôture de ce chapiteau-là. Je pense que ça va bouger sur scène. En tout cas, c'est ce que vous attendez un peu, j'imagine.
Alors, bah, j'espère, oui.
Ouais, bah ouais. vous avez des attentes pour ce soir d'ailleurs. Je vous ai même pas demandé. À part faire bouger les gens, danser. Je sais pas, est-ce qu'il y a un message à faire passer, est-ce que au public, aux gens qui nous écoutent à la radio.
Non, venez et amusez-vous.
Ouais, nous on est là pour jouer de la musique, passer un bon moment avec tout le monde. En plus ici c'est particulier à Tours parce qu'on a une histoire avec Béton qui remonte à loin pour certains d'entre nous. Brice, Gochiz, Bowlers, voilà, même un Plus Live qui nous ont déjà filmé sur un Say Cheese à Tours. Voilà, nous on est trop contents d'être là, quoi.
Trop bien, c'est la première fois que vous jouez au Car par contre.
Avec les Pookies, on y avait joué.
Ah
ouais.
Alors, ah donc,
c'était la même année qu'on connaît en mars. Ouais.
Alors, je n'ai pas l'historique de quart de tour, mais en fait,
c'était il y a longtemps.
Quelle année c'était
longtemps.
En direct. Alors, j'avais une dernière question, on y a déjà rapidement répondu. On dit souvent que quand on sort un disque, on pense pas au prochain, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à se projeter, on sait pas encore de quoi on va parler. Tu me l'as dit un peu tout à l'heure, on sait pas encore ce que ça va donner ce prochain disque. Est-ce qu'on va continuer dans cette. Dans cette veine-là, dans cette transition-là d'aller explorer autre chose, est-ce qu'on va aller complètement ailleurs ? Vous avez prévu de vous laisser porter ou de voir sur le moment ou...
Si tu avais posé cette question dans 3 jours, on aurait pu mieux y répondre parce qu'on attaque, on a 2 jours de répète demain. À partir de demain pour composer.
Oh ! Ouais, parce que là, donc, l'album, ça va faire 1 an qu'il est sorti, vous commencez déjà à réfléchir à...
Ouais, bon, on a des lignes directrices qu'on a envie de suivre.
On a des envies.
On a des envies, après, il faut voir comment est-ce que ça peut être applicable pour un groupe comme nous.
Bah écoutez, moi je vous souhaite que de trouver exactement ce qu'il vous faut.
Merci.
Et que ça continue de rouler. Not Scientist, on l'a dit, on vous retrouve à 23h40 sous le petit chapiteau d'Ocar. Ça risque d'être bien la guerre. Venez vous éclater et danser comme il faut. On s'écoute peut-être un morceau pour clôturer cette interview. Un extrait du dernier disque dont on a pas mal parlé. Le morceau d'ouverture, Cough in a Web. C'était les Not Scientist sur le Radio's Beton Flying Circus. We'll be right back.
tu savais que le cirque avait débarqué, toi ?
Les notes scientistes, à l'instant, dans votre émission Radio Béton Flying Circus, en direct du festival au quart de tour, ce mercredi 10 juin, deuxième jour de festival. Et c'était donc les notes scientistes qui étaient interviewées par Vincent à l'instant, les notes scientistes qui seront présents ce soir, d'ailleurs dans le cadre d'une carte blanche, ce dispositif qui est mis en place tous les ans, hein, dans laquelle une asso Tourangelle a la possibilité et tout le loisir de programmer le petit chapiteau. Et cette année, c'est l'asso Bollers. Asso local plutôt estampillé punk rock, plutôt asso do it yourself, hein, qui programme beaucoup dans les bars et qui donc ce soir a eu la tâche de programmer ce chapiteau. Ils n'ont pas programmé que les notes scientistes d'ailleurs, parce qu'on aura aussi les traders qui ouvriront la soirée, ou encore les Fort IAM. Tandis que sur le petit chap, eh bien, c'est Kalika, Luigi Pekka et modèle actrice qui auront la lourde tâche de jouer devant notre cher public. On va bientôt recevoir Kalika dans quelques minutes a priori.
Exactement.
Et
ce
sera une double interview, hein, puisque ce sera toi, Cécile de Radio Béton et Julie de Bob FM qui s'en chargeront.
Et oui, on a très hâte, hein, même hâte du concert en réalité, hein, surtout qu'elle vient de sortir un dernier album, donc j'ai un peu hâte de voir si c'est plutôt ces titres-là qu'elle va jouer ou si c'est plutôt les titres de ses précédents EP, albums, etc. Évidemment, il y a des incontournables, hein, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant l'interview,
c'est
un
sûr,
petit
ouais.
peu des sons qui nous tiennent à cœur et des nouveaux sons qu'elle a sortis.
C'est une artiste que vous suivez pas mal ?
Moi, je l'aime bien. J'ai rentré son dernier disque à la radio récemment, mais je la connaissais pas trop. J'avais pas fait le tour avant de savoir qu'elle était à Ocar. C'est-à-dire que je la connaissais de nom, je connaissais quelques titres, mais je m'y étais pas intéressée. Et c'était vraiment à l'occasion d'Ocar que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais aller fouiller. Et en fait, j'ai trop kiffé. Après, il y a certains sons qui sont plus pop que j'aime un peu moins, j'avoue, mais sur des sons un peu plus mélancoliques, c'est très stylé, et sur des sons un peu plus club. Ça rend aussi hyper bien, donc elle est hyper polyvalente, je dirais. Donc c'était cool là aussi de la recevoir pour parler un petit peu de comment elle mélange tout ça.
Moi, je connaissais pas du tout. C'est en écoutant et en préparant l'interview tout à l'heure que j'ai vraiment appris à la connaître et à découvrir ses sons. Et je suis très contente parce que c'est hyper ma vibe, je dirais. J'ai mis plein de trucs dans ma playlist favori.
Ah, des petits coups de cœur.
Exactement, ouais. Bah, j'ai bien aimé L'été est mort, pareil, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un de ses premiers titres qui est sorti. Voilà, et que je dise pas de bêtises, elle a sorti un titre aussi pendant le Covid qui s'appelle Peur de mourir. Je trouvais ça... le titre est pas hyper fun, mais je trouvais ça rigolo qu'elle le sorte pendant une période d'épidémie comme ça.
Oui, j'avoue que
ça.
Le timing est plutôt bon,
ouais, voilà.
On va pas se mentir. Mais ouais, pas mal de textes un peu déprimants, on va revenir dessus. Ce qui colle pas du tout avec l'esthétique hyper colorée qu'elle a en plus. Donc moi, j'étais assez étonnée quand j'ai découvert un peu sa discographie.
Ouais, parce que c'est vrai que quand tu la vois, en fait, tu t'attends à avoir une petite pop légère.
Ouais, en mode bonbon sucré, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout. C'est des chansons et des titres beaucoup plus profonds que ça.
Ouais.
Elle avait bossé avec Yael, d'ailleurs, sur un morceau il y a quelques années.
Exactement.
De cela, qui était beaucoup plus pop, justement. Beaucoup plus easy listening.
Ouais, et dont j'ai découvert la signification seulement aujourd'hui. Parce que moi, j'étais en mode les paroles, elles ne me parlaient pas. J'ai sucé tous les glaçons, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne comprenais pas trop d'où ça sortait. Et en fait, ça parle de harcèlement de rue, figure-toi.
Okay.
Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de lui poser la question un petit peu. Hein. Moi, j'avais envie de parler avec elle de son engagement un peu féministe et tout ça. On vous spoil, hein. On vous spoil déjà de base ce qu'on va aborder un peu pendant l'interview pour vous donner l'eau à la bouche, on va dire. Mais je savais pas du tout. Pour moi, c'était un titre en mode on fait la fête. Et en réalité, il y a une réalité plus sombre qui se cache derrière. Voilà.
Ouais, puis elle est très engagée aussi en tant que féministe. Et on va l'entendre dans son titre Chaudasse. Parce que ça, c'est pareil, quand tu l'écoutes, ça fait petite pop sucrée. Et en fait, quand tu écoutes vraiment les mots qu'elle dit, comment elle les agence aussi, on sent qu'il y a un gros engagement féministe derrière. C'est pareil, on en reparlera
évidemment.
Puis elle jouera tout à l'heure 20h45 sous le grand chapiteau de quart de tour. Alors a priori en billetterie on est pas mal. Je pense qu'il est encore possible de venir prendre un billet, mais ne tardez pas trop quand même. Ce serait dommage de rester sur le parking. Et si vous ne pouvez pas être là, eh bien vous pouvez vous brancher sur Radio Béton, hein, non pas sur votre radio Ferrarock préférée, mais bien sûr Radio Béton, car son concert sera aussi diffusé.
Et oui, et on a la chance d'avoir Mélissa, hein, qui est notre sublime coordinatrice d'antenne, qui a réussi justement à que ce soit diffusé, alors que c'était pas gagné d'avance. Pour le coup, on n'était pas sûr de pouvoir diffuser tous les concerts de la journée. On dira pas qui, on dira pas les noms des personnes qui voulaient pas forcément. Mais en tout cas, il y en a qui ont été convaincus par la magie de Mélissa. Et ça, on la remercie parce que ça fait toujours plaisir pour les auditoristes d'avoir un aperçu plus complet d'Ocar.
Oui, c'est vrai qu'il y a des artistes qui peuvent avoir un peu peur aussi que le rendu ne soit pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent et de ce qu'ils ont envie de montrer à leur public. Ce truc du contrôle de son image aussi, c'est un vrai sujet. Mais on s'évertue avec Mélissa et notre technicien Ludo à faire un bon rendu de l'ambiance avec tous ces petits micros qui prennent le public également. Quelle heure est-il ? Il est...
16h30.
Actuellement 16h28, je pense qu'elle devrait arriver dans oui. Très peu de temps. On nous a dit 16h30. En attendant, eh bien, est-ce que vous avez un petit d'autres trucs que vous voudriez voir ce soir?
Eh ben écoute, moi j'ai envie de. Alors je connais pas beaucoup de sons du JPK, mais j'en connais quelques-uns et j'avoue que j'ai un peu envie de voir ce que ça donne en concert. Parce que je sais pas trop quelle énergie ça donne. J'étais un peu fan de Columbine quand j'étais plus jeune. Donc en vrai, il y a ce petit côté nostalgique, forcément, des retrouvailles avec un artiste comme ça. Donc hâte de voir un peu ce que ça donne sur scène.
Ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on en écoute un morceau de l'UJPK pour justement découvrir ensemble peut-être le morceau Grande Musique.
J'écoute Deep Purple sous triste météo. C'est le retour des 10 belles gueules en hétéro. Maintenant que je prends plus de place, je suis une vraie terreur. Transfuge de clash, par en éclaireur. C'est toujours la même avec plus d'aigreur. Et j'ai plus de problèmes comme je fais plus d'erreurs. J'ose pas leur dire que j'ai peur. Défoncé, je me prends pour Mick Jagger. Comme l'impression que mes succès comptent pas. L'air calme à l'intérieur, y'a 10 000 combats. On verra bien ou alors on verra pas. Tantôt je vise le sommet, tantôt vers en bas. Comme enfermé dans la véranda. Ni dedans ni dehors où je suis, je sais pas. Mais je sais qu'il y a un monde qui sépare. Où je me trouve et là d'où je pars. Avant c'était pour changer de vie qu'on se couchait tard. Là je suis dans un after, il est 10 du spa. Avec des wannabes qui se prennent pour des stars. Je peux pas leur en vouloir. Je repeins les arcs-en-ciel en tout noir. Je vais à l'essentiel dans le brouillard. Des fois je disparais, des fois je suis tout part. Pas d'entre deux, on va pas se revoir. Je mate la fin d'un habit en boucle. Je remets toute ma vie en doute. Pour tout finir, faudrait être en double. Suis-je un animal fait pour être en couple? J'ai sacrifié tant de choses pour ce qu'on drape. Je sais qu'on rattrapera pas tout ce qu'on rate. Mais ils répéteront les phrases qu'on scandera. Puis on s'oubliera, puis on s'oubliera. C'est le jour où toute la terre soupira. Si ton truc est bon, fais beaucoup de tirages. Envie de tout abandonner au filage. Faire ma valise, rentrer au village. On écrit sans thème, on fait que des images. Des je t'aime en périphrase. Dans ma tête, enfer écrase. Je suis qu'un enfant que la terre écrase. Dis-leur que t'es en pierre et trace. Que malheureusement tu sais pas faire face. Mais que tu rêves de tous les remettre à leur place. Qu'on t'a comme condamné partout où l'air passe. Je charbonne donc je loupe tous les repas. Y'a tant de choses que je ne tolère pas. Donc je suis toujours en colère grave. La noirceur qu'aucun rayon solaire ne brave. Pour un billet je suis sur tous les plaves. Allume une clope sur une coulée de lave. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fait de beaux dégâts. Elle en veut déjà plus de son sac Bottega. On sera l'appel sur un roller coaster. Dans ton label je serai le meilleur du rôle. Pas de syndrome de l'imposteur. Le flot de titano alcoolique en costard. Y'a de toutes les couleurs dans le pochetard. Je ressens ta douleur, c'est un cauchemar. L'ingé tremble, les mains sur les potards. Et pour moi c'est trop tard. Mais tout est si paisible avant la fission. C'est pas facile mais j'ai la vision. Jette le fusil en plein cours de mission. Je rêve de grande musique sans trop d'ambition.
Toujours sur le plateau du Radio Beto Flying Circus en direct du festival au quart de tour. On vous a un petit peu parlé de la programmation du grand et du petit chap, mais il n'y a pas que ça sur le festival, figurez-vous. Il y a deux autres chapiteaux. Il y a des chapiteaux à perte de vue sur ce site, sur cette plaine de la Gloriette. Et on pourrait notamment parler du Keke Land où je suis allé faire un petit tour hier. Le petit chapiteau de DJ Keke, figure de Radio Béton, bien évidemment, avec ce soir les Strawfire qui se produiront ainsi que Keke et ses amis en DJ set. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça sur le festival au quart de tour, puisqu'il y a également le fameux Nomadland, le chapiteau de la Smala. La Smala qui a commencé hier avec beaucoup de musique électronique. On a eu du rap aussi avec Veuve, l'excellent projet Tourangeau, et bien ce soir vous retrouveriez le très bon DJ Tourangeau à Demetrius, qui a toujours des selectas extrêmement bien sentis, plutôt dans le breakbeat hein, Demetrius, mais également Dixit, Le Chador, Lou ou encore Melody Move. Un gros programme donc à retrouver également chez nos amis de la Smala au Chap Nomadland. Vous êtes allé y faire un petit tour hier ?
Un tout petit, mais j'ai pas trop compris ce qui passait au moment où je suis passée. C'était un peu what the fuck. Ça peut plaire, mais c'était pas trop mon cas.
Est-ce que c'était pas LK9 ?
Peut-être, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'y ai fait un tour très très vite fait. Et à un moment, il y avait aussi du reggae. Là, je suis restée un peu plus longtemps. On s'est posé un peu à côté. C'était pas le but de danser non plus à fond, quoi. Mais c'était cool, franchement ça fait plaisir, un petit moment calme,
ce qui est pas toujours le cas hein, c'est vrai hein, sous ce chapeau là. Mais ce soir, si vous voulez entendre du reggae, eh bien vous en aurez aussi. Et d'ailleurs, j'aime bien cette idée de finir avec du reggae, de commencer avec de la musique électronique, des breaks, des trucs qui tapent, de la techno progressive, et de finir avec un petit concert de reggae à minuit 45, histoire de redescendre un peu tranquillement.
Ouais, mais ça donne quand même envie de rester plus longtemps, je trouve. T'es dans une ambiance plus posée, mais tu te dis ah, je vais continuer la fête, ou en réalité ça, je sais pas, ça rebousse quand même. C'est réconfortant.
Et ben peut-être nous irons-nous nous réconforter là-bas tout à l'heure. Nous en attendant, on attend Kalika hein, qui va arriver d'ici peu de temps maintenant. C'est d'un moment à l'autre qui se prépare avant d'enchaîner des interviews cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se réécouterait pas autre chose en attendant ? Peut-être les Four IAM qui joueront ce soir sous le petit chapiteau à 21h50.
Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux.
Les 4AM à retrouver ce soir au festival au quart de tour, tandis que Kalika vient d'arriver sur le plateau et que Julie et Cécile ont tout un tas de questions à lui poser.
Tout à fait, je vais commencer par faire une brève présentation. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Et oui, merci
pour l'invitation.
Donc Kalika, tu es une artiste française, tu es autrice, compositrice, interprète. Tu fais de l'électropop, de la pop, du punk, de l'émo-pop, de la pop indépendante et même de la techno. Et tu définis toi-même ta musique comme pop trash. Et en fait, tu expliques que tu fais de la chanson française contemporaine trash aux mots tranchants. Alors ça, moi, ça m'a un peu interpellée, ces mots tranchants. Tu dis que c'est ce que les gens ont tendance à retenir de ta musique, en oubliant que ces mots-là, ils font partie d'un tout, d'un projet complet, avec une vraie DA derrière. Et je voulais un peu revenir sur ce projet-là pour celles et ceux qui ont tendance à retenir que les aspects mots tranchants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton projet ?
Oui, c'est vrai que j'ai appelé un peu mon projet, j'ai dit que c'était de la pop trash parce que tout simplement sur les premiers festivals, les premiers concerts, les gens qui me connaissaient pas et qui me découvraient me disaient toujours ah c'est pop, ah c'est trash, donc je me suis dit bon, les gens ont décidé, ça s'appellera comme ça. Mais après j'aime bien m'en émanciper aussi, c'est tout un tas de choses, comme t'as dit, c'est juste quand c'est de la musique hybride, les gens ils ont toujours besoin de mettre une étiquette, même si ça reste de la pop à la fin, tu vois, c'est un mélange de plein de choses. Que t'as pu dire là, il y a aussi un peu d'électroclash, de l'hyperpop, de l'électroclash, de la pop indé, digital pop, même il y a même un peu des influences un peu witch house dans les synthés, voilà, c'est un mélange un peu genre Crystal Castles, Lady Gaga genre.
On allait justement te poser les questions un peu sur tes inspirations, mais là tu nous en as cité deux. Moi je voulais revenir un petit peu sur tes mots tranchants, le fait que peut-être vu que tu es une femme, les gens s'arrêtent plus dessus que sur d'autres personnes, des artistes masculins. Je voulais revenir du coup sur tes textes, surtout ceux du dernier album Ma Claque, qui dénonce quand même pas mal les violences patriarcales.
Oui.
Je pense aussi à des sons plus anciens comme Chaudasse ou encore Les Glaçons avec Yel. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de produire des sons où il y a des textes aussi féministes ?
Sinon je pète un câble, je crois.
En attaque, claque.
Sinon danger. Non, c'est ça, je pense que ouais, c'est vraiment un ras-le-bol. Donc j'écris sur ce qui m'entoure, sur ce qui m'énerve, sur ce qui me fait réagir en tout cas. Et c'est vrai que quand c'est juste des trucs chill, j'ai pas forcément envie d'écrire dessus, je vois pas trop l'intérêt. Il y a toujours eu une dimension politique dans ma musique et je sais pas, ça fait juste partie de moi et de mon histoire. Je me suis pas trop posé la question, ça s'est fait comme ça depuis le début,
ouais.
De manière plutôt spontanée. Et après, au fur et à mesure, j'en ai pris plus conscience et c'est plus maîtrisé. Et voilà, c'est vraiment juste des choses de la vie qui m'énervent, qui me font continuer de parler de tout ça, parce que ça change, mais ça change pas complètement non plus, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai, ouais, dans mon dernier album, je continue finalement avec la chanson genre pute gothique.
Ouais, exactement, j'y pensais justement quand je te posais la question.
C'est vrai, c'est un rapport avec Chaudasse, je trouve aussi, mais d'une manière un peu plus détachée, un peu moins en colère, un peu plus en mode maintenant je m'en fous. Genre, si tu veux appeler pute gothique, let's go, je suis une pute gothique. D'ailleurs, je porte le t-shirt aujourd'hui.
Ah, mais oui, on n'avait pas vu, incroyable. Oui. C'est pas radiophonique, mais tu l'as décrit, ouais. Avec le petit astérisque à la place du U. Ouais. En tout cas, si on se plonge un petit peu plus dans certains sons, comme par exemple le chaos émotionnel, tu parles du fait de se comparer aux autres. Est-ce que tu trouves aussi que les artistes, bah, notamment les femmes, on en revient toujours à ça, sont trop mises en compétition dans le monde de la musique ? Comment tu vis, toi, tout ça personnellement ?
Ouais. Bah, tu l'as dit, c'est vrai qu'on nous met totalement en compétition et je déteste ça. Mais c'est pas, enfin, c'est déjà entre les femmes, mais aussi dans les carrières, un truc très capitaliste, tu vois, de chiffres toujours qui te mettent la pression et avec les réseaux sociaux encore plus. Enfin, je veux dire, maintenant pour les nouveaux et les nouvelles artistes, signer dans des labels, quand c'est pas des labels indépendants et tout, bien sûr, ça devient presque impossible si t'as pas déjà des chiffres énormes. Et ça, c'est un truc qui m'angoisse et que je trouve horrible, que je trouve qui va à l'inverse de l'art, quoi, et de pourquoi on fait de ce qu'on fait, quoi. Mais du coup, des fois, ça peut quand même nous pourrir, même les gens qui, à la base, font pas ça pour ça. Et ça me rend un peu ouf, des fois, que même une personne comme moi, ça m'atteigne, tu vois. Et je suis en mode, mais si même moi, je suis là à me comparer, alors que je suis quand même... Enfin, normalement, je m'en fous complet, quoi. Je suis en mode, bah, c'est vraiment la gangrène, ce truc, quoi.
Oui.
C'est vraiment mauvais.
Moi, j'avais une question aussi par rapport à tes références. Donc, on vient d'en parler un petit peu. Mais dans tes musiques, tu mixes énormément de références différentes. Donc, la chanson française, on l'a dit, mais aussi des touches de jazz manouche, de l'électro, comme un peu celle de Charlie XCX ou de Shy Girl. Et comment tout ça, ça peut coexister dans une même prod sans que ça parte un peu dans tous les sens, quoi ?
Bah, je pense que il faut juste... Enfin, j'ai juste fait plein de sons. Et jusqu'à, enfin, même mon premier album, je trouve que c'était encore un peu indigeste et tout. Genre, c'était plus lisse et tout, c'était plus pop, plus lisse. Et je trouve qu'il y avait un peu genre un son comme ci, un son comme ça. Et là, l'enjeu de ce deuxième album, c'était justement de pas qu'il y ait genre un son hyper pop, un son chanson, un son. C'était vraiment de faire un son global. Et comment ça s'est fait, c'est juste en faisant énormément. Sans réfléchir, sans se dire je veux mélanger ça et ça et ça. Juste faire, et qu'est-ce que je retiens à la fin? Et ben en fait, c'est le noyau qui reste, c'est ça le nouveau son de mon projet, quoi. Ça fait comme ça. Genre sans me dire. Enfin, je prends jamais des références quand je fais du son, quoi. C'est juste on fait du son, on se dit ah ok, c'est vrai que ça a fait penser à ça qu'on a écouté quand on était ado. Genre il y a des petits trucs, des fois je me rends compte ah ouais là ça m'a fait penser à Chris Acacius dans les synthés, mais c'était pas volontaire, c'est juste ça fait partie de notre culture aussi. Et là aussi comme j'ai changé de producteur avec qui j'ai fait l'album, forcément il y a aussi les influences du producteur,
oui,
qui entrent en compte et qui créent un nouveau son, un nouveau mélange. Donc voilà, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement avec le temps, en travaillant énormément, et ça a créé ce son là un peu qui pour moi c'est un peu c'est de la pop alternative, voilà, avec des influences très électronique 2010, avec une énergie quand même toujours vénère, quoi, un peu énergie punk dans l'âme, même si la musique c'est clairement pas punk, mais voilà, ça reste de la pop.
C'est vrai que c'est plein d'influences que t'as intériorisées. Je crois qu'il y a dans Ma Claque, tu as fait une petite référence à Britney, toutes les choses qu'on a écoutées, hein, que finalement on intériorise. Est-ce que si justement il y a toutes ces chanteuses là qui t'ont précédé, qui t'ont particulièrement marqué, est-ce que Britney elle en fait partie par exemple?
Bien sûr elle en fait partie, après dans ma musique ça se ressent pas, je trouve, c'est plus peut-être dans l'esthétique, oui. dans le côté, j'aime bien dans les visuels qu'il y a un côté iconique, j'aime bien les pop stars quand même, mais moi mon envie là-dedans c'est de faire un truc pop star mais différent quand même, genre pop star mais trash, quoi, toujours un truc un peu plus avec moins d'argent, enfin, donc un truc de la débrouille, que moi je viens de ça, donc j'ai pas envie de l'effacer pour être une pop star, donc dans ma tête je veux toujours garder ce truc entre les deux, ce qui est pas toujours évident, ça fait un peu avoir le cul entre deux chaises, où t'es en mode dans la pop t'es trop bizarre et dans la scène très alternative t'es trop pop, donc
ouais.
Mais c'est un truc que je veux continuer de le faire parce que je pense que bah, c'est une place que je dois prendre, c'est moi, donc voilà.
Et ça tombe bien que tu parles de ton univers visuel, puisque moi j'avais une question sur ça, donc c'est une super transition.
Ah, let's go.
Donc t'as une esthétique bien à toi, qui est très colorée, qui est très assumée, qui est très extravertie. Et toute cette direction artistique, c'est toi qui la gères. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que ça vient d'une volonté de pousser les gens, et peut-être plus particulièrement les jeunes aussi, à assumer leur choix, leurs idées, peut-être leurs revendications aussi d'un côté plus politique?
Clairement, c'est ça. Alors ça s'est fait vraiment de manière naturelle au début, je vais pas te mentir, genre c'est pas un truc que je me suis dit je veux faire ça pour que, voilà, je me suis pas dit c'est politique de m'habiller comme ci ou comme ça, ça l'est devenu avec le temps en fait, bah, j'en parle aussi dans Pute Gothique en vrai,
oui.
Enfin, parce qu'à la base quand j'ai commencé dans la musique, il y a un producteur qui me disait, qui était très relou, enfin bref, qui était en mode ah, tu peux pas t'habiller comme ça, si tu t'habilles comme ça tu ressembles trop à une pute gothique et ça marchera jamais, les gens vont pas t'aimer, en France on aime pas les gens comme ça et tout. Alors il avait pas tout à fait tort, on va pas se mentir que j'ai perdu plein d'opportunités à cause de mon style qui faisait peur, des radios qui hésitaient et qui en fait disaient ah non elle fait trop pute. Mais oui, de continuer à le faire malgré tout et que ça, des fois ça me ferme des portes, ça devient politique et oui c'est un peu un message voilà, pour toutes les personnes de culture alternative etc. qui ont envie de s'affirmer comme ça, parce que comment tu te présentes au monde c'est une affirmation de soi et c'est important de pas se gommer parce que ça ressemble pas au reste. Bah, de continuer à le faire, c'est vraiment pour faire passer ce message-là. Et du coup, j'ai un public qui va avec ces messages-là. J'ai vraiment un public qui me ressemble à 300%. Tout le monde a des flows vraiment particuliers. Voilà, j'aime vraiment. C'est des gens qui ont vécu un peu les mêmes choses. C'est pas des bourgeois et tout. Enfin, il y a vraiment un truc de des gens comme moi. Du coup, ça fait encore plus sens. Voilà, de continuer de me présenter comme ça, de manière. Vrai.
Et pour rester un petit peu dans le politique, moi je voulais savoir peut-être si t'as un petit coup de gueule à faire passer, vu que dans tes textes, bah, t'expliques que t'en as un petit peu ta claque de l'état du monde actuellement. S'il y a quelque chose qui résonne en ce moment, qui te saoule, et tu te dis, bah écoute, on est chez Radio Béton, on a grave la liberté de le dire, tu sais quoi, je le dis.
Il y a énormément de choses, la liste est longue,
oui.
Mais je dirais juste que bah, il se passe plein de trucs hardcore. Et il faut pas qu'on se laisse faire, il faut qu'on continue de créer du collectif. Donc c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait des festivals engagés qui continuent, parce que là c'est compliqué, on va pas se mentir, dans la culture, il y a de moins en moins d'argent, il y a plein de mes festivals préférés qui peuvent plus continuer, tous les festivals un peu alternatifs et tout, ils doivent s'arrêter et du coup il y a que la place encore une fois pour les têtes d'affiche qui sont déjà riches. Donc là je parle vraiment dans le domaine de l'art. Donc je trouve que voilà, les concerts, c'est aussi un endroit de collectif où on peut se retrouver, faire passer des messages. Donc continuons de faire passer ces messages-là ensemble. Et voilà, moi, c'est vraiment tout ce que je souhaite à mon public, c'est de pouvoir se rencontrer, de pas être seul, de pas être full dissocié face au monde qui est en train de brûler, quoi. C'est de pouvoir en parler, d'être ensemble et malgré toute cette merde, de continuer à faire la fête. Parce que ouais, les clubs, enfin la culture club, elle est très en danger aussi en ce moment et on va pas cesser de faire.
Alors moi, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Donc tu commences en 2016 en participant à la Nouvelle Star. Tu rencontres le producteur Balthazar Picard. Et pendant ton école de musique, donc. Et après, tu te lances dans le grand bain en AD avant d'être dans un label Because Music. Et je voulais revenir un peu là-dessus parce que tu commences dans quelque chose quand même qui est très mainstream. Après, tu passes dans le très indépendant, finalement, pour finir dans un label. Comment ça s'est un peu profilé et en gros, qu'est-ce que ton label t'apporte aujourd'hui? Est-ce que tu peux être aussi libre que quand tu avais commencé en indé? Comment ça s'est passé?
Après, comme je suis dans un label indé, donc déjà, okay. C'est très différent que d'être dans une major. Donc oui, je suis quand même plutôt libre dans mes choix artistiques. Et de toute façon, quand ils essayent, c'est l'embrouille, donc ils n'ont pas le choix. Mais quand même, j'ai senti un changement quand j'ai signé à mes débuts, parce qu'il y a tout ce truc autour de toi qui gravite au début. Les gens, ils sont en mode « Ah, mais ça peut être une grosse star » et des trucs comme ça. Les gens, ils projettent leurs envies, leurs machins. Et du coup, même si tu veux pas que ça t'atteigne et qu'ils aient un impact sur ta direction artistique et sur tout ce que tu fais, ça en a un d'impact inconscient. Mais quand même, moi, avec le recul, je me dis « Ah ouais, en fait, le fait qu'ils aient pas arrêté de rabâcher certains propos, genre « Ah, pop star, nan, nan. » En fait, j'avais un peu lissé sans me rendre compte... La musique, en tout cas. Pas les propos, mais la musique et un peu l'image aussi. Parce que là, j'ai pas du tout fait pour le coup dans l'album, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais. Et on verra après ce que ça sera, mais il y a forcément toujours un impact. De toute façon, quand il y a des gens qui rentrent dans la boucle, forcément, ils t'influencent d'une manière ou d'une autre, à moins de vraiment faire ton album complètement en retrait et ensuite leur dire c'est ça. Là, c'est ce que j'ai fait. Mais au premier, j'avais pas fait ça, j'aurais laissé un peu plus de place. Et forcément, du coup, il y a une influence, quoi. Donc voilà, et moi je trouve que ouais, là c'est un peu l'era des carrières indépendantes. Moi je suis plutôt pour ça aussi à la base. Mais bon.
Plutôt la débrouille, quoi.
Ouais. Là j'espère qu'ils n'écoutent pas l'interview. Il me reste encore un album avec eux.
En tout cas, moi je voulais aussi poser des questions un peu peut-être plus deep. Dans beaucoup de tes textes de ton dernier album, hein, comme dans ton précédent EP J'ai pleuré, il y a beaucoup de textes très intimes, très tristes. Je pense par exemple à Monster tous les jours ou encore J'ai pleuré, qui parle bah, par exemple de viol et sur lequel bah, je pleure absolument à chaque fois. Donc déjà ça c'est assez prenant, l'émotion qui se transmet à travers ce son là. Est-ce que la musique c'est pour toi un moyen d'extérioriser tes émotions, ou est-ce que aussi il y a un côté où tu fais ça pour que ton public qui peut traverser des choses similaires aussi puisse s'identifier?
C'est vraiment les deux. C'est vraiment... En fait, moi, la musique, pour moi, c'est une façon d'avoir une preuve. Je sais pas comment dire, c'est de mettre ma vérité quelque part. Parce que sinon, j'ai l'impression que avec le temps, tout s'estompe, tout se mélange. Tu sais plus c'est quoi la vérité. Et voilà, en ayant grandi, moi, j'ai une famille où c'était hardcore un peu. C'était très précaire et violent et tout. Et en fait... Tout le monde disait des discours différents, disait que c'était normal que ce soit comme ça. Et moi, en tant qu'enfant qui grandit là-dedans, j'étais en mode « mais c'est pas normal ». Et j'ai toujours pris cette habitude depuis que je suis petite d'écrire les trucs qui se passaient.
Journal intime.
Ouais, journal intime, mais je les écrivais et je donnais mon avis dessus. Et en plus, j'en faisais des petites chansons et trucs comme ça.
Okay.
Et c'est ça qui m'a accompagnée donc, dans la vie pour enlever la buée sur la vitre. C'est un peu ça, c'est pas forcément un truc cathartique premier degré, c'est plus un truc d'y voir plus clair et de dire ok, je suis pas folle, ça c'est arrivé, il s'est passé ça, c'est pas normal, malgré le fait que tu sois entouré de fous qui te disent si 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 c'est normal et non il s'est pas passé ça. Pour moi c'est ça un peu, c'est pour ça que je le fais, pour moi en tout cas c'est pour ça que je le fais, et ensuite c'est aussi pour qu'il y ait d'autres gens qui se sentent entendus, compris et qui soient pas seuls en effet. Voilà, c'est vraiment les deux.
Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, à part peut-être la musique, l'écriture, qui te permettent, toi, de te ressourcer, peut-être de t'échapper un peu de la pression que ça implique aussi de faire de la musique aujourd'hui ?
Ouais, c'est vrai que l'écriture, c'est un peu différent que juste... Enfin, en vrai, même le son. Mais c'est... En fait, quand tu fais une chanson, forcément, il peut y avoir à nouveau une pression. Mais quand tu juste t'écris ou juste tu fais de la musique, il n'y a pas de pression. C'est une fois que tu rassembles les deux que là, tu peux commencer à te poser des questions... Est-ce que ce son est vraiment bien? Est-ce que cette chanson va parler aux gens? Mais ouais, écrire au fur et à mesure. Tous les jours, j'écris un peu. juste parce que j'aime noter plein de choses qui me passent par la tête et ensuite ça m'aide pour faire une vraie chanson.
Ouais.
Et j'aime aussi faire de la musique juste comme ça, sans paroles, des mélodies, de la prod, voilà. Et après c'est un assemblage des deux et ouais ça m'accompagne au jour le jour pour tenir le coup et toujours prendre du recul sur les choses.
Et d'ailleurs je posais cette même question que je vais te poser à l'instant à Hadès de Planète hier parce que je trouve que ça résonne aussi avec ta musique entre les morceaux un peu tristes, des morceaux aussi comme Crazy. Est-ce que tu penses personnellement que les artistes torturés, bah, c'est les meilleurs artistes? Est-ce que tu penses aussi que ça contribue à faire de ton art quelque chose de plus beau? Il y a des avis très différents sur la question souvent, donc c'est toujours marrant de voir un petit peu ce que pense chaque artiste.
C'est très difficile, je trouve, de répondre à cette question parce qu'il y a plein d'artistes qui n'ont pas vécu des trucs hardcore qui sont incroyables, tu vois. Enfin, je dis ça en vrai, je sais pas, ça se trouve, ces personnes ont aussi vécu des trucs durs. On peut pas toujours savoir ce que les gens ont vécu ou pas en fait. Même la plus grosse des bourgeoises du 16e, ça se trouve, elle a vécu des trucs hardcore et c'est pour ça qu'elle a fait une super chanson. Enfin, tu vois, en vrai, je sais pas trop. Même moi, je peux pas savoir vu que dès la naissance, c'était déjà tracé le truc.
Oui.
Donc, je sais pas qui j'aurais été, ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais quand même fait de la musique, mais. Elle aurait été différente, ça c'est sûr, mais je sais pas si elle aurait été lumineuse, je sais pas.
Difficile de
s'imaginer.
Trop
dur de savoir, ouais. J'arrive pas à imaginer dans une autre vie. Je pense qu'il y aurait eu moins de bâtons dans les roues, mais ça aurait eu moins de sens aussi. Parce que quand t'as de la galère comme ça, bah en fait, chaque petite victoire elle est énorme et au final, c'est comme ça, j'accepte totalement ce parcours-là, tu vois.
Et alors, Kalika, si je me trompe pas, c'est pas ton premier nom, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire derrière ce nom?
C'est mon deuxième prénom, du coup, Kalika. Et ça vient de la sainte des gitans, Sarah la Kali, aussi appelée genre Sarah la Noire. Et pourquoi j'ai ce deuxième prénom? Parce que j'ai toujours grandi avec des gitans dans ma famille. Tout le monde est pote avec des gitans parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens du voyage. Moi je descends de famille de forains donc qui ont grandi en caravane avec des gitans et donc voilà c'était important, on allait tout le temps en Sainte-Marie-de-la-Mer et ils se sont dit ah ben on va lui mettre Kalika en deuxième prénom. Et ce qui est drôle c'est que ça fait aussi référence à une sainte à une déesse hindoue, Kali. Et ça ils savaient pas mes parents, mais après j'ai vécu en Inde, enfin bref, donc il y a un truc un peu bizarre. Et en fait les deux symboles sont hyper forts, autant Sarah la Noire il y a un truc très protecteur et doux. Et autant Kali, elle a un truc très violent. Autant dans l'imagerie, il y a un truc un peu punk, ultra coloré, criard, dangereux. Elle a une tête d'homme dans la main. Enfin,
ça te représente bien, je trouve.
C'est ce que j'allais dire. Je trouve ça drôle. Et en même temps, au final, elle est connue pour faire peur, mais alors qu'en fait, elle est là, elle vient détruire, mais pour reconstruire.
Okay.
Genre, du coup, c'est hyper fort. Je trouve c'est pas juste, elle vient détruire. Il y a un truc de reconstruction, un peu deep. Donc, je trouve que ça avait grave de sens, du coup, de garder ce nom-là en nom de scène. Quoi.
Ouais, totalement. Totalement. Ça colle parfaitement au projet, je trouve.
Oui, je suis d'accord.
Peut-être qu'on peut se tourner aussi sur la fin de cette interview vers l'avenir.
Ouais.
Est-ce que c'est l'occasion, peut-être, de faire un peu le tour de ce que tu as prévu de faire prochainement, des petits projets que tu as à tourner?
Ouais.
Bon, tu viens de sortir un album quand même.
Ouais.
Donc, on va
là,
pas te demander c'est quand le prochain. Parce que,
ah ouais,
voilà.
Non, s'il vous plaît. Non, déjà, c'était hardcore, là. Là il y a plein de trucs qui arrivent. Déjà il y a la tournée qui se lance, enfin là on commence avec des festivals. Ensuite à la rentrée c'est la tournée des clubs et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et et la tournée européenne avec Slater.
Oh, j'étais pas au courant. Ça c'est incroyable.
Là c'est ouf. C'est
qu'on
ouf,
a beaucoup écouté à la radio aussi, chez Radio Béton Slater.
Elle est super forte et je m'identifie pas mal à son parcours de vie et tout, et même à sa musique qui est assez hybride où on sait pas dire si c'est de la pop, si c'est électro, si c'est rock. Enfin, elle a ce mélange hybride qui moi me parle et du coup c'est ouf parce que c'est vraiment elle qui m'a choisi et tout. Donc, je suis en mode elle me suivait depuis très longtemps, mais là j'aurais pas pensé, bref. Donc je suis trop contente, c'est vraiment la meilleure nouvelle de mon année. Et ensuite il y a l'Olympia le 16 décembre qui est aussi quand même un truc important pour ma carrière quand même.
Incroyable, bah, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Et on peut te retrouver donc à 20h45 sous le Grand Chape. Et je pense que ce sera
le feu
de Dieu, ce sera incroyable.
C'est les premiers concerts là, c'est les premiers concerts vraiment. Donc j'ai hâte.
merci beaucoup
Kalika.
Et bah, merci à vous et je vous propose justement qu'on écoute un morceau de Kalika avant son concert de ce soir à 20h45.
J'en ai ma claque, que tout m'échappe. J'en ai ma claque.
Je rejoue à la Nintendo DS, je me dis que ça va passer. Dans l'excès comme l'insel, défoncé, je me prends pour une déesse. Quoi, ce monde est claqué. Propre, vous cachez toujours quelque chose. C'est vous les vrais bâtards, étouffez-vous dans vos caviars.
Arrête ton cirque tout de suite.
Le cirque, le cirque.
On est de retour sur le plateau du Radio Béton Flying Circus dans le cadre du festival au quart de tour, à Tours, bien évidemment. Mais à côté de moi, eh bien, je suis accompagné de mes amis brestois et brestoises qui hier sont allés faire un tour sur site et ont découvert un ventre-église.
Bah, absolument, alors c'est Léa qui s'y est rendue pour faire du journalisme de haute volée, n'est-ce pas ?
Coucou.
Et nous, on voulait vous faire une petite retranscription sonore de ce que ça peut signifier un ventre-église à ce festival au quart. Donc je crois que tu as suivi un petit peu avec ton micro les gens et leurs différentes opinions sur ce que c'est que l'esprit ventre-église.
Exactement, parce qu'au quart de tour, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi plein de petites side quests un peu intéressantes. Là, c'est le Pentocar qui fait des petits événements comme ça, donc il y a le ventre-église. Aujourd'hui, il y a une autre activité, et sur toute la semaine, il y a un peu des trucs. Donc, on est allé essayer de faire une petite capsule sonore qu'on va vous faire découvrir, quoi.
Let's go.
J'ai quitté mon acolyte Richie La Menace pour rejoindre une activité haute en couleur sur le site de Quart de Tour. Vous en doutez peut-être, le ventre-église.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?
Mais c'est hilarant. Je suis très heureuse. De beaux maillots de bain, des performances assez spectaculaires.
On va essayer de ramener la coupe à la maison.
Un de gagnant signera le magnifique trophée qui a été fait par les jeunes du Dame du Mûrier. Et gagnera ce magnifique et sublime trophée fabriqué en savon pour sa glisse.
Donc les candidats se préparent.
Il y a une préparation de fesses juste devant moi. Une petite piscine, je vous explique. Hein. Et un cul qui est en train de se préparer à glisser.
Il vient de se tremper les couilles dans la bassine pleine de mousse.
Une piste glissable avec un liquide visqueux.
Plein d'émotions différentes qui se bousculent. Surtout de l'incompréhension.
État civil, majeur, ça fait pas longtemps. Apte physiquement, on verra bien. État de lucidité, toujours. Corse. Tenue exigée. Oui, forcément que je suis prêt. Je glisse depuis toujours. Protection. Le port de déguisement gonflable est autorisé et fortement recommandé pour le style. Que moi, je suis bon là.
La piste est en train d'être mouillée. On vient d'ajouter du savon, ça risque de devenir bien sale ou propre.
Il y a un mélange d'expérimentation, on se rend compte collectivement quand on voit certains moves, qui à mon avis, des gens qui étudieraient la physique, savent que ça ne marche pas. Mais en fait, parfois, il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Mais j'ai pas fait science non plus.
Ce ventre glisse. Et Jo de Mirabeau.
Ouais. Oh, bravo Jo.
Le ventriloque ne veut pas.
Et le jury a désigné à l'unanimité comme vainqueur de ce premier ventriloque du pain d'Ocard, d'Ocard de Tours, édition 2026, Captain Yo. Vous pouvez l'applaudir. Réalisé en véritable savon, Captain Yo, tu pourras encore bien glisser chez toi.
On vous le ramène à la maison. Moi, tu me mets un verre dans la main.
Captain Yo, tu as l'honneur de venir signer le trophée officiel du patron.
Donc voilà, c'est super parce que les festivaliers ont pu se laver à ce petit ventriloque. Je pense qu'il y en avait qui étaient très contents. Voilà, je n'ai pas vu la gueule du prix en savon. T'as vu à quoi il ressemblait le trophée en savon ?
C'était magnifique. C'était magnifique. Il y avait une sorte d'auréole, un petit canard. Voilà, c'était très beau, très coloré. Ça donnait envie de se laver. Hein. Ouais.
Et c'était un plaisir à écouter, évidemment, ce matin en se réveillant super tôt, vous savez, pour vous préparer ce genre de petits trucs. Alors nous, on va essayer d'aller voir un petit peu ce que c'est les autres activités du jour tout à l'heure, pour vous faire un pad régulier, on espère, sur les différents trucs qu'on peut trouver sur le site du festival.
Et oui, comme ça, vous vivez aussi un peu le festival avec nous si vous n'avez pas réussi à avoir des places. Et pour celles qui sont ici même, eh bien, vous revivez un peu ce moment extraordinaire, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bon, on est d'accord, ça donne envie d'en voir plus. D'aller voir ce soir ce fameux ventriloque sur le site du festival. Tandis qu'on continue, hein, évidemment, notre émission en direct du festival au quart de tour. Et qu'on va recevoir les traders dans bien peu de temps, j'ai l'impression. Les traders qui, on le rappelle, joueront ce soir sous le petit chapiteau du festival au quart de tour dans le cadre de la carte blanche à l'assaut Bowlers. Une des nombreuses assauts bénévoles et do-it-yourself qui peuple notre ville et puis qui continue d'organiser régulièrement des concerts un petit peu partout dans les différents bistrots de la ville. En tout cas, les traders sont en train d'arriver, ils vont pouvoir s'installer tranquillement, tandis que eh bien, nos chers collègues sont en train également de se préparer à l'interview. Allez, installez-vous, on est là, on reprend. Cher Mayotte, je peux te laisser la parole.
J'étais en train d'ajuster ma crinière.
Pour que ça passe avec le casque.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est
et ils sont avec nous. Salut. Bonjour.
Salut les gars.
Salut.
Salut, ça va. Salut.
Au grand complet, on a de la chance en plus, les traders, les marchands de punk rock. Bienvenue avec nous sur le festival de quart de tour dans ce petit espace radio où on va passer quelques minutes ensemble à discutailler du groupe et plus encore. On va peut-être commencer par des petites présentations. Plus vous êtes là tous les trois, trio de punk rock. Mais dans vos descriptions, c'est marqué si tu aimes le garage, le stoner, la pop. Il y a quelqu'un qui vous a déjà dit que vous faisiez de la pop, en fait, c'est ça le...
Putain, non, jamais, vraiment, on met tous les termes génériques qui existent pour tous les styles. On espère que la pêche va être bonne, c'est tout.
On racole.
Ouais.
Ah, ceci explique cela.
Ouais. On hésitait à mettre raga, mais on s'est dit c'est peut-être un peu too much.
C'est peut-être un petit peu
beaucoup. Ouais.
Vous êtes avec nous aujourd'hui, et pour rappeler un petit peu votre carrière, on a eu un premier album en 2013, un deuxième en 2023, How Much Heart Can You Take, avec mon meilleur accent anglais, et déjà un petit nouveau morceau en 2026, qui s'appelle Facettes. Je veux bien que vous nous en parliez un petit peu de ce nouveau morceau, cette petite fraîcheur qu'on a découvert il y a peu.
Bah, on n'a pas le droit de dire qu'on travaille sur un nouvel album, mais bon, ça y ressemble quand même fortement.
On espérait que vous ne le disiez pas.
Ouais, voilà.
Bah, tu vois, voilà. D'ailleurs, on ne l'a pas dit.
D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit. Hein. J'ai dit que j'avais pas le droit d'en parler, c'est pas pareil. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais, on a sorti... Vas-y, je te donne le rôle.
Non, mais du coup, ouais, effectivement, on a un nouvel album en préparation, mais qui va pas sortir cette année. Et on a bossé un peu rapidement sur ce morceau pour qu'il sorte vite, pour faire de l'actualité, comme on dit. Non, mais ouais, c'est ça. On avait envie de sortir un morceau vite. Il y a Charles qui nous a rejoint à la guitare juste après la sortie du deuxième album. Donc, on voulait faire du neuf avec lui, quoi. Et d'où la volonté de sortir ce morceau vite. En plus, cette année, c'est assez calme pour nous au niveau concert. et puisqu'on bosse sur l'album. Et là, vu qu'on enchaînait pas mal de dates en juin, bah, on s'est dit bah, ce serait cool de sortir ce morceau à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu une étape de transition, vu que les gars ont eu la gentillesse de m'intégrer dans l'effectif et voilà qu'on refabrique quelque chose ensemble avec une énergie et un mélange différent aussi, parce que c'est à chaque fois différent quand on change de line-up, donc ça permettait de mettre une étape, alors que l'album n'est pas fini, quand même une étape de transition avant de sortir vraiment le disque, quoi, pour un peu commencer à mettre un pied dans ce qui va arriver, quoi.
Cette arrivée, justement, en termes de composition, en termes de tout ça, ça a dû changer aussi beaucoup de choses sur ce nouvel album, sans parler de l'album. Comment ça fonctionne, tous les trois ensemble? Qu'est-ce que peut-être ça a changé dans vos habitudes?
Bah, plein de trucs, hein, j'ai l'impression. Non, mais c'est cool. En fait, c'est quand même... c'est bien parce qu'on doit débattre de trucs tout le temps. Et ça, en fait, c'est quand même cool, en vrai, qu'on soit pas d'accord. Et qu'on arrive quand même à des finalités. On se traite pas de tous les noms, mais on est bord. Voilà.
mais quand même pas loin.
Non, mais ouais, et puis en plus, géographiquement, on est éclatés. Donc, on s'est pas présenté, mais Jérémy, qui est à la basse, il est sur Lyon. Charles, à la guitare, sur Paris. Et moi, à la batterie, Romain, sur Grenoble. Donc en fait, on se capte peu. Et on essaye de composer un peu à distance. On a tous des ordi avec des logiciels, on s'enregistre, on sait faire. Et donc on s'envoie des morceaux de chansons, et quand on se capte, on essaye de mettre des trucs en commun. On suit un petit peu, parce qu'effectivement, on n'est jamais d'accord sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Du coup, il y a besoin de beaucoup de débats, beaucoup de discussions pour arriver à faire un truc qui nous plaise à tous. Et voilà. Mais on y arrive. Et c'est beaucoup de compositions à distance, en fait. Cet album, ça a été peu de compositions dans un local de répète. C'est un album en télétravail.
Exactement, c'est ça. Ouais.
C'est moderne, c'est dans l'air du temps. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait tout ça, quoi. Vraiment d'avoir des trucs où on travaille que à distance, où il n'y a pas d'énergie collective pour la création. Ce qui a été un peu surprenant d'ailleurs à certains égards, au moment de mettre vraiment les morceaux en place qu'on avait composés, de se dire ah oui d'accord, c'est ça l'énergie du truc, quoi. En fait,
parce que vous arriviez tous avec des trucs, des idées préconçues différentes sur ce que les autres allaient faire.
Non, pas tant, mais même après avoir fabriqué le truc vraiment numérique, bah, quand tu dois l'exécuter, en fait, tu découvres des choses, quoi. Du coup, tu t'es quand même surprendre un peu, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait, quand tu joues le morceau, tout le monde dans la même pièce, avec 100 dB, quoi, il se passe une énergie différente.
Ouais, il se passe d'autres trucs, quoi.
Et des fois, tu redécouvres un peu ton morceau, ou en tout cas, tu découvres des passages, t'es là, tu l'avais pas pensé comme ça, le truc. Et... Donc, il y a des énergies différentes qui se passent entre le moment où tu le joues. Et quand tu l'as fait dans ta chambre en slip à 23h un soir de semaine, quoi. Et donc voilà, il y a des façons de vivre le morceau qui sont différentes. Et c'est un peu étonnant des fois de se retrouver avec des morceaux qu'on a composés depuis des mois mais qu'on n'a jamais joué. Et on se met à les jouer, on est là, ah ok, c'est ça qui se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, c'est intéressant.
Après, peut-être que les vrais musiciens, ils vont se dire, mais en fait, c'est normal, les gars.
Ça donne des surprises en concert aussi, j'imagine. Ça donne encore des surprises en concert.
Ouais, grave.
Oui, c'est sûr. On découvre nos morceaux en concert.
Justement, sur cet éclatement Grenoble-Lyon, je me demandais si vous inscriviez dans une scène plutôt lyonnaise. Là, il y a les copains de Not Scientist qui sont là aussi ce soir. Je sais que vous avez l'air de jouer avec eux assez régulièrement. Vous semblez quand même. Vous vous sentez inscrit dans une certaine scène quand même? Comment ça se passe?
Bah, on vient plus que la scène lyonnaise, je pense. On vient tous de la scène punk rock. On a tous grandi là-dedans et évolué là-dedans. Donc en fait, on est quand même beaucoup attaché à ça. Donc ouais, notre scientist, effectivement, on s'est croisé pas mal de fois dans diverses formations d'ailleurs. Pas forcément celle-là, mais je dirais que c'est notre ancrage, c'est plutôt celui-là, quoi.
Ouais, la scène punk rock française en général et de toute manière, même si le projet... À deux bases, était à Lyon. On joue pas régulièrement à Lyon. On est plus vraiment dans la scène française, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça. Puis on a tous eu d'autres groupes avant, en fait. Et nous, Charles, on le connaissait. Ça fait déjà 15 ans qu'on se connaît, en fait, avec Charles. Là, on joue ensemble depuis 2 ans, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît. En fait, on s'est tous croisés à des moments donnés, que ce soit donc nous, les gars de Not Scientist, avec leurs anciens groupes ou leurs groupes parallèles, quoi. Donc c'est vrai que la scène française, la scène punk française,
c'est un petit monde.
C'est un petit nid consanguin, on va dire.
C'est bien consanguin.
C'est des toiles en fait, et puis on se connaît tous.
Bah, puisqu'on parle de ça, moi je suis allé un petit peu interroger mon petit doigt qui s'appelle Brice. Et du coup, il m'a proposé quelques trucs. Vous avez des souvenirs sympas de concerts à Tours ? Parce qu'il paraît que vous en avez fait quelques-uns.
C'est pas moi qui peux demander ça, je me souviens de rien.
Il se rappelle jamais de rien. On a déjà joué à Tours,
On a déjà joué à Tours, ouais, certainement. Le Canadien Café, non ?
Ouais.
C'est à Tours, ça.
Tu vois, ouais, Brice, c'est... qui c'est ?
Brice, je vois.
Brice, il dit que vous avez fait à peu près tous les lieux où c'est possible de jouer à Tours.
Ah ouais ? À ce point-là ?
Peut-être, possible, hein. Peut-être. Mais effectivement, Brice, il nous fait jouer depuis. Ça fait un moment qu'il nous a fait jouer à Tours et qu'il continue à nous faire jouer. On a joué au Beaumont il y a 2 ans aussi, ouais. pour le Say Cheese. Non, j'ai un souvenir. Moi, c'était en 2012, donc ça date. On faisait une tournée qu'on avait appelée le Câlin Tour, et en fait, on jouait à Tours avec Hogwash, un groupe de Paris. Et le délire de la tournée, c'était de faire des câlins à tout le monde. Donc on avait fini dans le bar à faire des câlins. Mais des vrais câlins, tu sais, des câlins où tu te prends vraiment dans les bras, tu prends le temps de sentir l'énergie de l'autre.
Oh, c'est beau.
Et on avait fait des câlins à tout le monde. Je ne sais plus où c'est qu'on avait joué, dans quel bar. Mais voilà, c'est le petit souvenir mignon qui me revient en tête.
Et vu que vous avez parlé de jouer depuis 2012, c'est différent. C'est quoi la différence entre faire du punk à 20 ans et à 40 ans?
Les lendemains, les courbatures,
les congés,
les cervicales où tu fais ah, oh, pourquoi j'ai bougé la tête comme ça hier. Non,
bah oui, bah, le physique suit pas toujours, on va dire quoi. Mais bon,
ouais, ça demande moins d'énergie, ça demande quand même pas mal plus d'énergie, ouais. Et puis, quand tu choisis de t'abîmer sur une tournée, tu réfléchis pas pareil avant d'y aller, quoi.
C'est ça.
Justement, au niveau des tournées, il y a quand même un passif aussi de dates où vous avez beaucoup bougé. Et ça doit donner aussi lieu à des bons souvenirs, justement.
Ouais, il paraît que vous avez énormément tourné dans les pays de l'Est, et avec des tournées de fous qui se terminent à Saint-Pétersbourg ou des trucs comme ça. Et j'ai entendu dire que vous auriez... était marqué par un pays en particulier qui serait plus punk que les autres, où vraiment vous avez ressenti des énergies de dingue. Ça vous parle ou pas?
T'as entendu dire ça?
Ouais, Brice m'a dit.
Ah, okay. Tu peux commencer par là. Hein.
Brice m'a dit que vous aviez été marqué par un pays en particulier ou par des dates, quoi.
Alors, je vois pas là.
Ça doit être la Biélorussie, j'imagine.
Ouais, la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, en fait. Tous ces pays vraiment à l'est. Vas-y, tu voulais dire.
Oui, non, mais j'imagine que ça, parce que c'est vrai que quand on y avait été les premières fois en Biélorussie, c'était encore plus fermé qu'aujourd'hui et personne allait jouer là-bas, donc c'était vraiment à la fois roots, à la fois un petit peu dangereux politiquement parlant. Y avait 2-3 bagnoles, 2-3 mecs en costard qui traînaient devant les concerts, où c'était rassemblement de gamins qui, eux, pour le coup, étaient chauds. Donc c'était un dépaysement complet, quoi, pour nous,
ouais.
Et pour eux aussi, je pense. Donc j'imagine que c'est ça. Après,
et vous faites encore ça aujourd'hui, des tournées comme ça, hyper longues
Non. Bon, non, non.
Voilà, tu voulais, c'est réponse à la question précédente, tu sais, la différence entre 20 et 40 ans, c'est tu pars en tournée 2 semaines. Non, plutôt 5 jours, c'est bien.
Flemme.
Non, c'est pas flemme, mais bon, après, on a des vies aussi qui sont beaucoup plus... occupé que ce qu'on avait à l'époque, où tu disais bon, c'est bon, je prends 2 semaines de congé, je me casse avec mes potes. Là, on a tous des vies de famille, etc., quoi, donc...
et politiquement, récemment, enfin, on a entendu y a des groupes qui ont qui ont annulé des tournées justement dans les pays de l'Est,
ouais,
pour des raisons politiques, ou en Russie principalement, hein, pour des raisons politiques, ou des groupes qui ont subi des shitstorms incroyable parce qu'ils décidaient d'aller faire une tournée en Russie, comme si en Russie il n'y avait plus de gens. Voilà. Il n'y avait plus de gens qui veulent écouter du punk sous prétexte qu'il y a Poutine, quoi. Donc, vous en pensez quoi de ça? Enfin, ça vous ferait kiffer. Est-ce que vous aborderiez ça en vous disant bah tiens, merde, est-ce qu'on va être emmerdé après, ou
Je sais pas. Je pense... okay, ouais. C'est une bonne question. Je pense que ça changerait pas grand chose fondamentalement, parce que enfin, moi j'étais pas là quand les gars ils sont allés. je devais avoir 2 ans et demi. Et mais en fait, déjà à l'époque, j'imagine que quand vous rentriez dans le pays, vous étiez pas persona grata non plus, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vous veniez proposer des concerts alternatifs dans des lieux alternatifs. Donc en fait, fondamentalement,
oui, c'est vrai qu'on
la situation, ça change pas grand-chose.
On n'allait pas jouer au stade de Moscou, c'est sûr, de toute façon. Ouais.
Non, mais la première fois qu'on a été en Biélorussie,
il y avait quand même les
flics qui étaient là avec les jumelles, ouais, qui observaient le concert, et il y avait dans la capitale, la Minsk, il y avait pas mal de concerts où il y avait eu justement dans les semaines précédentes des descentes de flics où tout le monde avait fini au poste et tout. Et nous, on était là en train de jouer. Pour la petite histoire, on n'avait même pas de vrai visa. On avait un visa de transit. On était juste censé passer dans le pays sans s'arrêter. Enfin, en vrai, il y avait quelques
dans le Camtar en roulant.
C'est ça, tu vois. Biélorussie, les concerts de rock, c'était interdit en fait. Même le petit rassemblement alternatif, t'as pas le droit en fait.
Ouais.
C'est vraiment.
Et puis c'était dans une période
sans
où
parler de jouer dans des stades,
pas mal de manifs, etc. aussi. La première fois où on y a été, ouais, c'était déjà tendu avec la jeunesse, etc. Bref, mais oui, pour répondre à ta question, je sais pas.
C'est un peu ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire qu'en fait, en dehors des conditions et de risques dans lesquels tu te mets ou potentiellement de difficultés, le choix d'aller là-bas, il est pas conditionné à l'état politique, puisque fondamentalement, les gens qui vont voir les concerts, je pense qu'ils sont... ils sont pas du tout, ils soutiennent absolument rien de ce qui se passe. Donc.
Oui, bah après, si t'es un artiste qui pense son truc en termes de business plan, tu peux te poser la question. Mais...
bien sûr. Bon, après, c'est vrai que les conditions dans lesquelles vous tourniez à l'époque, vous en étiez pas là, quoi.
Non.
En termes de retombées médiatiques, ça faisait pas grand effet.
Non, ça va. Mais c'est vrai qu'on en a jamais trop parlé. Moi, je serais plus, pour répondre à la question, je serais plus, en répondant très, sans trop réfléchir là, je serais plus chaud d'aller jouer en Ukraine. Pour des copains ukrainiens qui sont là-bas, et je serais plus chaud d'aller jouer en Ukraine. Après, ça craint d'aller là-bas. Mais j'ai vu qu'il y avait des groupes qui quand même faisaient des concerts, des groupes étrangers qui venaient en Ukraine faire des concerts en ce moment-là. Donc ça se joue. Après, jouer en Russie, effectivement, je peux comprendre que ça fasse une shitstorm. En même temps, bah, qu'est-ce qui se passe de la population locale
c'est ça.
Vraiment, je sais pas qu'en penser, en vrai. C'est ambivalent. Et puis les gens... il y a aussi des punks, il y a aussi des gens qui
ils ont besoin de musique, ouais.
Qui pensent l'alternative et qui sont dans le conflit de ce qui se passe en ce moment en Russie et qui sont sur place, quoi. Et voilà.
Bah ouais, puis pour retourner un peu en local, en se désaxant de cet axe un peu en dehors et tout. Là, vous venez jouer pour une radio asso. Vous venez jouer dans des lieux et des orgas qui sont assez ciblés pour des publics assez ciblés. Et quel constat aussi vous faites peut-être aussi en local sur peut-être ce qui se passe aussi aujourd'hui pour les orgas qui vous accueillent, la situation du milieu de la culture en général et surtout ces orgas-là qui sont précaires aussi à la base. Vous le ressentez, vous comment vous le vivez justement, vous, que ce soit sur scène ou quand vous venez à ce type d'event, quoi.
Bah oui, c'est indéniable qu'il y a une dégradation et a priori qui est pas faite, sauf changement 2027, si vous voyez où je veux en venir, qui aille dans un bon sens, mais on sent que la culture se serre la ceinture de manière générale et que pour les assos c'est dur et même les gens, nous qui avons beaucoup traîné les bases dans le DIY, on sent que les gens ils ont beaucoup plus de mal à entreprendre, en fait, que ça coûte cher moralement, ça coûte cher politiquement, ça coûte cher financièrement de faire des trucs. Et du coup, il y a des gens qui se retiennent plus, il y a des gens qui font moins, il y a des... Donc ça se voit que c'est dur pour tout le monde, que c'est plus dur, et quand des gens entreprennent, on est d'autant plus reconnaissant quand tu vois vraiment l'engagement et les risques que tu prends quand tu organises ce genre d'événement aujourd'hui et potentiellement comment tu peux te mettre dans la merde financièrement ou en termes de sub ou pour parler de rock en scène par exemple, mais bon c'est pas le même business, mais qui se font retirer une subvention, tu vois, sur un coup politique que je soutiens totalement d'ailleurs, hein, mais voilà, il y a en plus je trouve qu'il y a une politisation, ce qui est sain dans un sens, puisque tout est politique dans le fait d'organiser des concerts, de faire de la musique, mais du coup qui prend une place et en fait qui devient un clivage systématique il y a plein de gens, je pense, qui osent moins se mettre en risque aujourd'hui à cause de ça. Ouais, c'est un peu, j'ai un peu répondu à mille trucs en même temps et j'ai un peu navigué, mais.
Mais vas-y, vous en pensez quoi, les gars ? Navigue, fais-toi plaisir.
Non, mais t'as répondu sur le global. Après, nous, est-ce qu'on s'en rend compte ? En fait, nous, on n'est pas un groupe pro. On n'est pas musicien, en fait. Enfin, on n'est pas musicien au sens on ne gagne pas notre vie avec ça. On a tous des tafs à côté. Et on a toujours, comme disait Charles, on a toujours joué avec des conditions DIY et tout. L'époque, justement, quand Brice nous faisait venir, on n'a jamais demandé beaucoup d'argent. Et on ne se ressent pas, on ressent pas frontalement les baisses de sub actuelles parce qu'en fait on demande toujours pas beaucoup d'argent, en fait on cherche pas à en vivre.
Et donc, 50 mais, balles et 3 bières.
On cherche, ouais, bon, ouais, on demande plus qu'à l'époque, rigole, hein. Parce qu'effectivement c'est plus compliqué. Il n'empêche que notre salaire ne se joue pas là-dessus. Du coup, on ressent moins cette baisse de sub parce que bah, une asso peut pas payer 5 cachets, par exemple. Ça, on va pas voir ce genre de problématique là, personnellement. Après, on l'entend, on voit toutes les subs qui sont coupées, on voit toutes les orgas qui ont des difficultés à organiser des choses parce que d'une année sur l'autre, bah, d'un seul coup, il y a plus d'argent qui vient, quoi. Donc ça, on le voit. Après, là, je réponds juste de façon de le ressentir nous. On n'est pas professionnel, donc ça nous, on le voit moins. Je sais pas.
Ouais, bah après, dans la manière dont je pense on va aborder les choses et ce qu'on va demander aussi, quand tu vois que ça devient plus galère d'assurer ton propre niveau de vie pour des gens comme une orga qui se mettent en risque et tout, bah évidemment tu te sens moins de demander, enfin tu vois, tu fais aussi, bon, nous on demande effectivement pas beaucoup, donc on n'est pas tant affecté que ça, mais même là-dedans, je trouve que c'est... T'as plus envie de dire bah viens on demande un peu moins et ça existe que ça n'existe ouais. pas.
Mais voilà c'est ça. Nous on peut plus facilement réduire la voilure que parce qu'encore une fois notre salaire il dépend pas de ça quoi. Voilà.
Et ça vous permet aussi peut-être plus de liberté de fonctionner comme ça dans ce que vous faites musicalement quoi.
Bah du coup on fait ce qu'on veut. Après tu vois on en parlait tout à l'heure dans le camion, c'est aussi beaucoup plus de galères. Et pour revenir à la différence 20 ans, 40 ans, ouais, bah, à 20 ans, on s'en foutait un peu de galérer, collectionner des dates. Pour, bah, on va jouer quelque part et puis la rémunération ne paye pas les frais du déplacement. Donc on collectionne des dates pour rentrer dans nos frais. Bah, à 40 ans, on peut moins le faire, on a moins l'énergie de le faire, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête à choisir le train le moins cher parce que juste on n'a pas d'argent. Donc c'est vrai que c'est des difficultés un peu... on aimerait bien pouvoir s'autoriser plus de choses et être plus relax parce que du coup on a plus vieilli et voilà. Mais effectivement, on a la liberté de dire bah là on peut jouer pour 100 balles, ça n'impactera pas notre taux horaire ou nos heures ou quoi que ce soit quoi. Voilà.
Bah, ça reste fun.
Bah bien sûr, mais sinon on serait pas là à le faire. Mais oui c'est sûr ça reste fun.
Et ouais alors il y a. Du coup, vous en parliez tout à l'heure, il y a 2 ans, vous aviez fait l'ouverture de ces cheese. Et il n'y avait pas beaucoup de monde et Brice, il était tout triste.
Et oui, d'ailleurs.
Vous avez fait jouer à 14h.
Non, 12h30, non. Parce que ça, j'allais dire, tiens, une bonne histoire avec Brice.
voilà, bah les gars, vous jouez à 12h30.
Moi, je me rappelle. On est arrivé, on était encore en soirée, en fait, de la veille. Mais c'était pas loin quand même.
Il se souvient de pas mal de trucs, finalement.
Il se souvient bien, ouais, je vois ça.
Les mémoires sélectives. Le coup du jouer à 12h30, pour moi, ouais, était dur celui-là.
Et du coup, revanche ce soir.
Bah ouais, espérons.
Bah ouais, 20h, regarde, Brice.
T'es ça,
ouais. Ouais, alors là, normalement, il y a du monde.
Cool.
Bah, question pour vous, du coup, on va faire une contre-interview. Ça se passe comment le festival?
Bah, ça se passe méga bien, hein.
Ce n'est que le deuxième jour.
Alors, ouais. C'est, bah, très...
c'est pas mal,
ça
déjà.
Déjà, purement nous, en termes de radio, un peu égoïstement, on a eu très peu de problèmes techniques, ce qui est... extrêmement rare. Normalement, d'un seul coup, il y a un ordinateur à la radio qui
évidemment,
plante.
Sinon, c'est pas une.
2 minutes avant le direct, ou voilà. Et là, on n'a pas eu ça cette année. Donc, pour l'instant, voilà, on touche du doigt, on croise les bois et tout. Et le festival, bah, je crois que c'est pareil. Hein. Il y avait le feu sacré hier sur pas mal de concerts.
Trop bien.
C'était bien le trop bordel. Bien. Les gens, ils avaient. De toute façon, souvent ici, les gens, ils arrivent ici avec un esprit de revanche. Hein. Se venger de ces 364 jours en attendant le quart d'après. Et donc voilà. Et hier, le mardi a envoyé du bois. Hein. je crois.
Trop bien.
Trop bien.
Donc ouais, on vous attend. Je pense que les tours en jeu vous attendent de pied ferme ce soir.
Allez. Bah, avec plaisir.
Et vont vous donner plein de belle énergie.
Yes, trop cool.
On a hâte de voir ça en tout cas. Et on vous remercie d'avoir passé quelques minutes avec nous, les marchands de punk rock.
Bah non, c'est une
merci
à vous.
Ce sera à 20h sous le moyen chap en ouverture. Et voilà, ça va nous secouer un petit coup quoi. À 20h, c'est cool. C'est bien. Ça non, fait une bonne intro.
Ouais, un petit apéritif. Un petit apéritif sorti de boue.
Apéritif sonore.
Ouais.
Bah, merci beaucoup les gars, merci à Brice.
Bah, merci
qui
à vous,
du coup vous embrasse. Vous allez le voir.
Il est avec nous en pensée.
Il fait des massages là, il est pas loin, il est pieds nus dans l'herbe. Voilà. Vous pourrez le trouver facilement.
Bisous Brice.
Et bah, merci à vous tous et toutes sur le plateau. On va écouter justement les Traders tout de suite avec le morceau Grandiose.
Here we come, so tender, listen!
Tu savais que le cirque avait débarqué, toi ? We'll be right back.
regardez, regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux.
Radio Béton Flying Circus, votre émission en direct du festival au quart de tour, à Tours, bien évidemment, sur votre radio Ferrarock préférée. On vient d'avoir les traders sur le plateau pour une chouette interview hein, qui était très agréable à écouter. Les traders qui ouvriront d'ailleurs la soirée, qui auront la lourde tâche de commencer ce deuxième jour de festival à 20h sous le petit chapiteau. Mais si on élargit un petit peu le festival au quart de tour, au quart ce n'est pas que la Gloriette, c'est aussi les apérock, ces concerts dans divers lieux de la ville à midi et à 18h, enfin à midi 30 et à 18h30 si on veut être précis, chaque jour, et ce depuis lundi. Lundi ça a commencé avec
Poupée Triste,
c'était du côté du petit Rex, chouette petit bar non loin de la rue du Commerce, et puis ensuite l'apéroc un peu légendaire du lundi soir. Le fameux apéroc du Bistrot 64 avec le gros son des Algi. Est-ce que vous êtes passé voir d'autres apérocs cette semaine?
Et bah moi pour ma part ce midi, et d'ailleurs j'ai croisé quelques collègues dont toi Loïc qui était aussi
tout à
pour
fait.
Atomic Flav devant la petite maze, enfin à côté de la petite maze, ça faisait presque plus devant le Canadian Café qu'en face de la petite maze. Mais Atomic Flav, une tête un peu connue de la scène locale parce qu'on le retrouve également dans Jim Ballon.
Ouais, dans plein de projets. Oui. DJ Space Short aussi, DJ Space Short, alias ouais. électronique.
Et puis donc Jim Ballon qui est un groupe de rock un peu... Ouais, rock, hein, un peu large, quoi, qui est dans
très
la scène
libre,
Tourangelle
ouais.
depuis pas mal de temps, qui existe depuis, je sais pas, bien...
Pas mal d'années, quand même.
Presque,
hein.
Presque 10 ans,
je vieux disque de Hanover Records, d'ailleurs. Ah, ouais. Même, j'aurais dit plus, moi.
Ah,
mais,
peut-être.
Ouais, j'en sais rien.
Carrément.
Ouais, mais, tout à fait.
Mais du coup, là, Flav, du coup, qui est un peu aussi la tête pensante de Jim Ballon, là, il a monté un peu son projet solo Atomic Flav, que je trouve trop super, genre...
Super intéressant, comme c'est, proposition.
Ouais. Et puis, avec une espèce de nonchalance dans les paroles, il y a un côté presque enfantin que j'aime trop. Enfin, genre, je trouve que c'est très particulier et on voit pas ça souvent. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Loïc.
Bah, moi, j'ai envie de commencer par dire que c'est pas parce que vous avez le micro que vous pouvez impunément dire que Béton est la meilleure radio de la Ferrarock. Parce que depuis tout à l'heure, j'attends un petit break. C'est vrai que vous parlez magnifiquement, il n'y a pas une respiration. Mais dans le grand clash, quand même, j'ai envie de dire que la prime Radio Audio est... Bon, Mutine, je ne sais pas quand même. Bon, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs. Mais quand même, il y a d'autres prétendantes. Et, voilà.
Je dis sur votre radio Ferrarock préférée.
Ouais, tout à fait. C'est très subjectif, tout ça. mais en tout cas, effectivement, il y avait une autre personne avec moi qui n'a pas trop accroché sur le flow, notamment.
Ouais.
Un petit peu chanté slamé là, moi ça m'a pas tant dérangé, technicité un peu impressionnante mais qui faisait pas frimeuse. Je trouvais qu'il avait l'air sympathique en fait. On a envie de boire une tisane avec lui.
Bah, grave, il est pieds nus, il a de la fumée qui sort de son t-shirt.
Et alors, ça, moi ça m'a fait émerger une question quand même. Est-ce que la fumée des concerts là, c'est chaud? Parce que quand même, autant de fumée dans ton t-shirt, mais ça doit brûler, ça doit être très.
Non, je crois que c'est.
C'est de la fumée froide.
Ouais, c'est fumée température ambiante, je pense.
Tempérant 37,5, tu veux
37,5,
dire. 37,5, okay, d'accord. Bah, je lui souhaite en tout cas, parce que c'est vrai qu'il était assez vaporeux du coup, le garçon quoi. Et tout ça dans vos charmantes petites rues, hein. C'est sûr que bon, c'est un peu mignonné chez vous, du coup, ça, c'est pas désagréable quoi, quand même.
Bah, c'est pas mal. Ouais. Presque comme Saint-Etienne finalement.
Par contre, vous avez beaucoup moins de talent en post-industriel, bien ouais. dégueulasse. Je suis désolé, mais alors là, à ce niveau-là, c'est évident qu'on gagne la compète de ouf. Quoi.
Bah, ce soir, une autre petite rue mignonne, hein, puisque ça se passera au Puzzle Pub, juste à côté de la Basilique Saint-Martin. C'est bien ça.
Oui,
je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à me souvenir du nom de ce monument.
Mais il y a trop d'églises aussi hein, dans votre ville.
Ah bah ça, on
s'y perd un peu.
On est extrêmement croyants.
Il y a trop d'églises, trop de rivières, c'est un peu le bordel.
Bah, ce sera Passager d'ailleurs, qui sera de passage énorme.
Oh.
Du côté du Puzzle Pub ce
c'est
soir.
C'est que mercredi.
Avec son rap boom bap extrêmement bien exécuté. Notre riche programme hein, jusqu'à samedi avec les Sugar Satellite, Budface demain à l'Archipel et au Diffus, Jinsei et Vétuste à la Guinguette et au Misérable Quartier Blanqui, ou encore l'excellente Malva, groupe de Scrimo Tourangeau assez récent, et ça se passera ça à la Tortuga Taverne, je ne sais pas où c'est d'ailleurs.
Je sais pas, faut demander à Langui parce qu'il sera dans tous
mais
les
vous,
cas.
Vous avez tellement lieu dans votre ville que vous savez même pas où c'est les trucs.
Bah ouais.
Ah ouais, il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Okay.
Eh bien, figurez-vous que le Tortuga Taverne est rue des Trois Écritoires,
C'est la même rue,
la même rue
que la petite
que celle, maze. Que la petite
c'est
maze
la seule que je connais pour l'instant.
Et que le Canadian Café, décidément.
Dis donc.
Eh ben on essaiera en tout cas d'aller en voir des apérocs. En attendant, eh bien, peut-être pourrions-nous écouter Atomic Flav.
Qu'en dites-vous?
Mais histoire de mettre de la musique sur les mots.
Et des mots sur la musique.
J'ai trop de trucs à penser, trop de bolides en fer qui nous enferment et nous rendent impalpables, qui font la course dans nos, c'est la course dans le vent, dans nos veines des solutions, des cellules, un peu de son stylé, c'est l'époque qu'on avance, on vole. tout le temps. Je me sens comme un circuit de course où tout s'affonce, tout me double et met la zone. Je me laisse faire de toute façon. J'ai trop de trucs à penser, trop de bolides en toc qui nous enferment, des neurones impalpables qui font la course dans nos, c'est la course dans nos êtres. Et tous les jours on peut tenter le coup, tordre le cou à toutes ces vieilles idées qui nous empêchent de fly tout le temps. Je me sens comme un circuit de course où tout s'affonce, tout me double et met la zone. Je laisse faire de toute façon. C'est trop de trucs penser, trop de bolides en toc qui nous enferment, des neurones impalpables. Pas point la course dans nos, c'est la course dans le vent, dans nos veines, des solutions, des cellules, un peu de son stylé. C'est l'époque par l'avance, on vole un tout le temps. Je me sens comme un circuit de course où tout s'affonce, tout me double et met la zone. Je me laisse faire de toute façon. J'ai trop de trucs à penser, trop de bolivoli verts qui nous enferment, des neurones impalpables. Pas point la course dans nos, c'est la course dans nos êtres. Et tous les jours on peut tenter le coup, tordre le cou à toutes ces vieilles idées qui nous empêchent de fly.
Tu savais que le cirque avait débarqué, toi ?
Radio Béton Flying Circus, l'émission en direct du festival au quart de tour. Et dernière interview, dernière mais pas des moindres, les modèles actrices viennent de nous recevoir. De nous recevoir, d'arriver.
Oui, mais tout à fait, on n'est que mercredi.
C'est ok, c'est ok. Et oui, modèle actrice, bienvenue. Donc modèle, c'est un groupe, un nom slash modèle barre oblique actrice 4 gars de Brooklyn, pardon, originaire de Boston, qui évolue quelque part entre le dance punk, le noise rock, le rock indus. Sur le papier, ça peut faire peur. À l'écoute, ça fait autre chose, ça fait bouger.
Ça fait mal aussi.
Donc parce que ce qui rend modèle actrice vraiment à part, c'est ce mélange qui devrait pas fonctionner et qui fonctionne parfaitement, du rock indus avec une ambiance club, de l'agressivité mais aussi de la grâce. On a plein de questions. Modèle actrice, bienvenue.
Welcome to the show. We're very pleased to have you here.
Merci, thank you for having me.
Donc pour commencer, pour être sûr qu'on utilise un peu les thèmes, les mêmes termes, et surtout parce que ça nous intéresse de savoir à quoi vous vous rattachez, quelles références vous mettez sur votre musique, qu'est-ce que c'est modèle actrice musicalement.
So to start and have the same terms as your band, what kind of label or genre you can put to your music?
I call it club music because It doesn't have any computers on stage, but it's meant to be experienced in a group setting, and I feel like the music is complete when people are dancing with their bodies. The body's the final instrument to be added to the song.
Pour lui, c'est de la musique club, même s'il n'y a pas d'ordi sur scène, et c'est vraiment un peu pour faire danser les gens et que le corps ça devienne un peu le dernier instrument qui est nécessaire à sa musique.
Donc une grande place au corps. Donc peut-être, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qui se passe sur scène du coup ? Qu'est-ce que la scène apporte de différent à l'album qu'on peut écouter ?
So there's a big place to the body, you said, and what the live setting add to your music because you're on stage with your body.
Oh, I think. Well, I mean, it's music meant for dancing first, but I think in the live setting, I think the audience gets to know that there's a lot of humor in our music and a lot of heart. And I think you definitely hear that on Pirouette, but especially with our first album, Dog's Body, the shows were, they took some of the heaviness away, and our shows are meant about liberating yourself. So that's, you know, it's about your body feeling weightless.
Et ben justement, c'est une musique qui est faite pour danser. Du coup, en live, c'est vraiment ça qui va être ajouté. Et justement, par rapport à leur premier album, où ils trouvaient qu'en live, on pouvait perdre un peu justement de ce côté un peu lourd. Là, sur le deuxième, ils essaient justement de garder ce truc-là et que tous les corps soient libérés.
Donc de la liberté, on peut parler aussi peut-être de vulnérabilité. Je sais qu'il y a des sujets assez intimes, assez politiques qui sont évoqués dans les morceaux. Donc de la vulnérabilité pardon, des corps et dans les sujets aussi. Est-ce qu'on peut parler de ça, de comment on retransmet en musique cette vulnérabilité et surtout les sujets évoqués qui sont parfois intimes sur une musique qui danse en fait?
So you talk about freedom, but there's also a lot of topics of vulnerability. Sorry, in your lyrics and in your music, how do you approach this vulnerability? Sorry, it's a hard word.
Maybe say fragility.
Yeah,
no?
yeah. Fragility too. Fragility. That works. Yeah, I think it's about embracing every part of the human condition and the some noise.
That's the way it means. Yeah. It's
and finding the strength in fragility and finding this. It's, you know, as a gay man, I'm, you know, naturally feminine, and not to say that that is weak or fragile, but to be soft is also to be strong too.
Écoute, trouver en fait la. J'ai perdu beaucoup, pas mal d'éléments au final dans la réponse à cause du balance, je m'en excuse. Mais il y a de la force dans la vulnérabilité et de la force dans la fragilité. Et aussi en tant que personne queer, en tant que personne gay, du coup il y a un côté très féminin, mais que du coup ça, il trouve une force en fait dans cette chose-là. Est-ce que tu veux apporter quelque chose, Loïc? Ah non, voilà.
Non, justement, je pensais effectivement la dance music est aussi. Très lié à la culture queer depuis toujours. Et est-ce que justement ce lien-là, il est pilier justement de cette symbiose entre quelque chose de dur et quelque chose de dansant, avec cette réflexion sur le masculin qui a l'air d'être un peu visible, en tout cas dans les clips et dans ce qu'on a pu un peu apercevoir.
So the queer scene and dance scene is very bounded since. And tu peux redire s'il te plaît, désolé.
Ouais, est-ce que je me suis perdu, tu m'as pris par surprise. Est-ce que finalement l'alliance du dance floor et du queer et cette réflexion un peu sur le masculin, c'est leur manière justement de donner un point de vue sur tout ça?
So the j'ai pas les mots.
Finally, the union between dance and queer culture, is it a way to think about masculinity for you or gender?
Maybe not necessarily the club space, but I mean not masculinity specifically. It's about the club being a place for someone to exist outside of what. Traps them or is caging them outside of the club. The club is a place where you can be whoever you want to be. And that's what our shows are, you know, they play into that lineage.
Il disait que le club pouvait être une manière aussi de libérer, de casser justement toutes ces choses, et que avec ses concerts, il aimerait bien justement faire ça.
Et donc du coup, parce qu'on a parlé du coup de club music et tout, mais il y a quand même des influences rock'n'roll, même si du coup on a plutôt parlé de dance floor et de club, donc je veux pas mettre de mauvaise étiquette, mais dans la musique on a quand même ce truc de rock qui revient. Comment, quelle place ça a? Est-ce qu'on peut parler un peu de ce sujet-là, de quelle place ça a dans tout cet univers club, dance, etc. Où il est ce rock'n'roll qu'on entend?
So we talk a lot about club music, but there's also a lot of industrial rock in your music. Mm-hmm. How does the industrial rock influence take place in this club environment?
It's a lot of we use noise as the palette to, you know, bring a lot of tension, and I feel like to me, the wall of sound is so bright and so heavy that it almost, like, it feels euphoric to me, that it's such a, it's a dense and relentless force that it feels like, you know, plummeting, you know, through the earth in a way.
Alors il voit le bruit comme une sorte de palette, justement, où il pourra dessiner plein de choses, et qu'il voit quelque chose aussi de très brillant un peu dans ce mur de son, dans le côté mur de son. Et puis voilà.
Ok, donc le noise aussi un peu comme une base, si j'ai bien compris, ouais, ce truc d'avoir du poids et de la puissance. Est-ce que tu veux en discuter?
Ouais, ben en fait je me demandais justement... On se demande ce que ça donne sur scène maintenant. On est très très curieux et curieuse de voir ça. D'autant que là, vous avez l'air d'enchaîner une grosse tournée européenne. Alors, j'ai l'impression que là, sur les 6 prochains mois, vous jouez beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Et je me demandais si c'était juste un hasard. Vous aviez déjà beaucoup écumé les US. Ou si vous jouez mieux ici que de l'autre côté de l'Atlantique.
So you're in a big tour, and we noticed that you play a lot in Europe, more than in the States. Mm-hmm. Is there a reason? Because or do you play too much in the US, or do you play better in Europe?
I mean, we play good shows when the audience is good too, you know. So, and Europe keeps inviting us back. So I'm happy to be touring a lot in Europe. I don't know what I don't think we decide. The audience decides where we go, really. So Europe happens to be where we're going a lot these days.
Alors il dit que les bons concerts, c'est quand le public est bon aussi, et que ils vont là où on les invite, et que en fait c'est en Europe aussi où ils sont beaucoup invités. Mais qu'il n'y a pas vraiment de lien en soi entre les deux, qu'ils veulent juste jouer et du coup ils viendront là où ils sont invités.
Et si justement il y a cette audience réceptive, je me demandais un petit peu comment ça se passait l'autre côté des États-Unis. Vous avez quand même l'air de brasser des questions queer de manière assez vénère. On est dans l'ère de Donald Trump. Est-ce que justement il y a aussi des choses qui sont plus compliquées, le fait de jouer de l'autre côté, est-ce que c'est devenu plus frontal, plus dur, plus bataille?
Is it harder to play your music with the message you want to evoke in the political situation you have in the US?
No, I think it makes it even more important to do it. And I feel more empowered to create a safe space for queer people to go in Trump's America. We hate Trump.
Donc que non, au final ça rend la chose encore plus forte, et qu'il faut justement créer aussi, que ça crée une sorte d'environnement pour justement le public, la communauté queer, de créer un environnement safe, et lui ça lui donne une sensation d'empouvoirment encore plus importante, justement que c'est hyper, enfin qu'il faut le faire justement, et qu'il déteste Trump.
Ouais, parce que justement, vous êtes de Boston, puis de New York, c'est quand même des villes qui, d'ici, c'est pas pareil que de venir du Texas, de Floride ou du fin fond de l'Alabama. C'est aussi c'est des endroits où vous arrivez à jouer, par exemple, à vous produire, et où les scènes, comme vous dites là, ça fait sens aussi.
So you went from Boston to Brooklyn, and it's... places that is more easy to play than in Alabama or something, or other places.
We've played in Alabama. We've played every manner of place in America, and there are queer people in all of them. And I think it is unfair to put one city above another. I think culturally there are many different cultures in the United States, but the want for a place to, you know, there are people everywhere that we relate to, and who, when we come to the show, we see ourselves in them and they see themselves in us all throughout, in a, you know, Boston or Alabama or otherwise.
Que au final, y a des personnes, une communauté queer dans tous les endroits, dans toutes les villes des États-Unis, et que les cultures aussi sont très larges, et du coup que y a forcément des endroits où ils se reconnaissent, et des gens se reconnaissent en eux, n'importe où ils jouent, partout dans les États-Unis.
Bah merci beaucoup.
Merci. Alright, well, I'll see you at the show later.
Tout à fait, à tout à l'heure.
Okay.
Et merci à vous, chers amis, pour cette dernière interview de cette seconde émission Radio Béton Flying Circus. On est toujours au Festival au Quart de Tour. Ça ouvre désormais dans une heure. Merci à tous les animateurs, animatrices passés sur le plateau aujourd'hui. Merci à Ludo pour la technique, à Mélissa pour la régie d'antenne. On se quitte avec Mode Électrice.
Merci à toi pour l'animation.
Yeah.